Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Un mot avant de lancer l'émission, le prochain épisode sera un épisode très spécial auquel je vous invite tous à participer. On va faire un épisode un petit peu communautaire, on va tester, on va faire une expérience. Et par Discord, on aura un channel dédié où on va avoir toute la communauté présente. Tout le monde peut venir, hein, que vous soyez patriote ou pas, ça sera public. Et on va parler des jeux qu'on attend le plus pour la fin de l'année et un petit peu au-delà, on va dire, pour les 6 prochains mois. Parce que c'est vraiment la folie qui va nous envahir dans le jeu vidéo. Il y a des trucs complètement dingues qui vont venir et je voulais faire à un moment un état des lieux de ce qui arrive. Je me suis dit que ça serait une bonne occasion de le faire avec vous. Donc on aura une petite partie peut-être où on va couvrir l'actu, hein, comme toujours, et puis ensuite une partie avec la communauté qui pourra participer. Je pense que ça va être marrant, ça risque d'être un petit peu le bordel, mais donc jeudi prochain, ça sera le 30 septembre, jeudi prochain à midi, soyez au rendez-vous sur Discord et sur Twitch évidemment avec nous pour cette épisode communautaire fantastique. Et on lance l'épisode. Aujourd'hui, dans le rendez-vous jeu, on va parler de Kena Bridge of Spirits, une très belle surprise, Eastward, qui est également une bonne surprise. On a également un jeu extrêmement Trinity, Gas Station Simulator, Castlevania Grimoire of Souls et tout plein d'autres jeux. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 204. Nous sommes en septembre 2021, 2 jours après mon anniversaire. Et quel meilleur cadeau d'anniversaire que de faire un rendez-vous jeu avec vous tous et vous toutes. C'est un plaisir à chaque fois. Je vais remercier d'ailleurs les auditeurs que j'ai le plus dans le cœur. Bon, ils sont tous dans mon cœur, mais ceux-là en particulier parce qu'ils participent au financement de l'émission. Yola Noziro, Yann Michala Farinaz, Gilles, Julien Lefort et le producteur de cet épisode, Claude Girel, qui a trouvé le niveau secret de production sur patreon.com/rdvjeu. Merci à vous tous d'être là avec nous. Et on a aujourd'hui, pour nous accompagner dans toute l'émission, d'une part Trinity qui est là et vous imaginez bien que c'est elle qui va nous parler de Gas Station Simulator. Comment ça va, Trinity?
Ça va très bien. Joyeux anniversaire.
Merci,
un
merci.
Un petit peu en retard. Je ne savais pas tout ça. Mais oui, ça va très bien. Très impatiente de vous parler des paquets de chips à 8 euros que je vends dans ma station essence.
8 euros ? Mais ah, franchement, j'ai toujours su que tu étais comme ça, en fait, Trinity. Ça me surprend pas.
L'appât du gain.
C'est ça, c'est ça. Comme si tu n'avais pas assez d'argent en vendant de l'essence qui pollue. En plus, il faut que tu vendes des chips.
Exactement. Bon.
Très bien. On a également le plaisir d'accueillir pour... Bon, ça fait quelques fois qu'il a déjà été dans l'émission. Kevin Sicurel, alias Moguri, qui nous vient du Cozy Corner, le podcast le plus... Alors, Kevin, bonjour d'abord. Ouais. Je vais trouver un moyen Salut. Original de décrire ton podcast. Est-ce que tu es prêt?
Vas-y. Alors, vas-y, je suis prêt.
Ton podcast, il est extrêmement mus. Alors... Mus, c'est un terme suédois qui veut dire que c'est hyper agréable, chaud, chaleureux. Tu vois, c'est le truc qui te fait te sentir bien quand dehors il fait froid, il y a de la neige, que tu te sens pas très bien. Voilà, tu as un petit truc mus, c'est comme un petit feu de cheminée avec un bon petit truc à boire tout chaud, peut-être un vin chaud par exemple au hasard. Et ben ça pour ouais. moi c'est le cozy corner.
Ah, je suis ravi de cette description. Ça ressemble au hug qui
exactement
danois, qui se prononce hug. C'est un peu le même principe, c'est ça?
Exactement. Tu sais, c'est dans ces pays où il fait un peu froid. C'est l'esprit qu'il faut créer pour se sentir bien.
Pour se sentir bien. Oh, bah, c'est une merveilleuse description. Je suis très touché. Merci beaucoup.
Eh ben écoute, c'est moi qui suis touché de ta participation à l'émission. Toi, tu as joué notamment à Eastward, qui est un jeu dont on attendait pas mal et qui, ouais. bah, qui est tout à fait charmant et dont tu vas nous parler dans
c'est
un
ça.
Moment.
C'est on ça, va... dans lequel je regrette l'absence de station-service et de frites à 8 euros, mais qui reste très sympa quand même.
Eh ben écoute, j'ai hâte que tu nous en parles. En même temps, il n'y a pas de frites, mais il y a une casserole, c'est ça, qu'on utilise
ouais,
comme arme.
Oui, c'est vrai.
Il y a quelque chose, il y a quelque chose. Bon, on va commencer. Donc, comme je le disais, on a toute l'actu. On va parler de l'anniversaire de THQ Nordic des 10 ans. On a Tim Sweeney qui se plaint d'avoir été jeté de l'App Store, encore plus qu'il ne l'avait été jusqu'à maintenant. Les rumeurs de Star Wars chez Quantic Dream. Et on va commencer avec, bah, il y a plein de grosses sorties cette semaine. On va même pas pouvoir parler de tout. On en évoquera certains en plus. Mais d'abord, on va parler de la super bonne surprise, je crois, de cette semaine. C'est Kena Bridge of Spirits qui est disponible depuis quelques jours, auquel tu as joué, toi, Trinity. Moi aussi, j'y ai passé quelques moments. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles on est particulièrement, disons, agréablement surpris du truc, c'est qu'on commençait à s'inquiéter un petit peu pour Kena Bridge of Spirits. On n'avait pas de nouvelles, c'était un peu, on ne savait pas ce que ça allait donner. Mais je vais résumer un petit peu le jeu et puis on va en parler. Alors Kena Bridge of Spirits, c'est un jeu qui avait fait sensation lors de sa première présentation pendant un PlayStation Showcase, qui est sur PC et sur PlayStation, je crois qu'il est sur l'Epic Game Store, et sur PlayStation en exclu console. Et c'est un jeu qui est développé par Ember Labs, une société qui a été formée par des animateurs, animateurs de ciné, et on reconnaît dans le style le talent de ce type d'équipe, parce que le jeu est d'abord extrêmement beau, et puis il y a une vibe entre Ghibli et Pixar un petit peu, et du coup c'est leur premier jeu, et on se demandait un petit peu ce que ça allait donner, parce que un premier jeu avec des ambitions visuelles aussi imposantes, eh ben on craignait qu'ils aient tout mis dans le graphisme et qu'au final, le jeu en lui-même soit un peu décevant. Et la bonne surprise, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Il est plutôt convaincant à tous les niveaux, y compris au niveau des graphismes, où il est pour le coup absolument éblouissant. Toi, tu y as passé de bonnes heures déjà. Qu'est-ce que tu penses de Kena Bridge of Spirits, Trinity ?
Alors justement aussi pour ajouter un petit point, y avait effectivement cette crainte parce que c'était un premier jeu, etc. Et en plus, il y a eu un petit déboire à la sortie du jeu parce que quasiment personne n'avait reçu de clé. Et qu'en général, quand la presse ne reçoit pas de clé, ça sent pas bon. Et du coup, ça avait encore plus rajouté un petit peu de climat un petit peu flippant avant qu'ils sortent. Et finalement, effectivement, très bonne surprise. Moi, j'ai passé déjà deux lives dessus.
J'irai plus loin que ça encore. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Il y avait très peu de clés. L'embargo était au moment de la disponibilité du jeu. Donc, les reviews ne pouvaient être publiées que quand le jeu était déjà disponible. Et puis surtout, il n'y a eu aucun bruit depuis le retard annoncé il y a quelques mois. Il aurait un ou deux mois de retard, je ne sais plus, mais il n'était pas encore prêt. Bon, ça, aucun souci, mais il n'y a eu aucun push marketing. Personne n'en a parlé, il n'y a pas eu de trailer, il n'y a pas eu d'annonce, il n'y a pas eu de preview, il n'y a rien eu du tout. Et donc, oui, on pouvait se dire, attends, généralement, quand un éditeur ou un développeur fait silence radio et ne fournit pas beaucoup de clés de review et de tests, généralement, ça ne sent pas bon du tout. Donc, on était tous dans l'expectative, on va dire, plutôt négative, quoi.
Exactement, alors que là le jeu est en train de cartonner, notamment sur Twitch, hein. Moi les viewers me disent mais tout le monde est en train de jouer à ce jeu, même toi Trini. J'ai vraiment suivi la mouvance. Perso j'y ai joué on va dire je pense approximativement déjà 6-7 heures, et comme tu l'as dit, moi je trouve que le jeu est satisfaisant sur tous les niveaux. Donc déjà on a cette animation où on ressent vraiment la patte de ceux qui faisaient du cinéma d'animation, ça se sent, et je trouve que ça fait une nette différence et ça apporte une touche supplémentaire dans les cinématiques. On a ce gameplay qui est, c'est pas un gameplay révolutionnaire, mais il fait le taf, il est fluide, donc c'est déjà pas mal. Un monde hyper, hyper bien travaillé, hyper mignon, mais en plus de ça, une difficulté de dingue sur les boss. Moi, c'est ce qui m'a fait halluciner parce que je l'ai joué au début en normal, en me disant ça va être cool, je vais pas me prendre la tête, les mobs ça se passait très bien, les petites phases de plateforme tranquille, et là je suis arrivée sur des boss à passer des deux heures sur un boss. Donc Ah ouais, il y a des boss qui sont extrêmement durs. Tu verras quand tu vas avancer un petit peu plus loin, au point que moi, j'avais tellement pas envie de me faire des cheveux blancs que j'ai passé le jeu en mode histoire, en mode tranquille. Comme ça, je peux faire les boss doucement. Donc, c'est un jeu qui permet, je trouve, de s'adapter un petit peu à tout le monde, avec vraiment 3 niveaux de difficulté. J'ose même pas imaginer le mode hard. Du coup, je pense que tout le monde peut y trouver son compte. L'histoire est sympa. Bref, c'est vraiment une très belle réussite pour un premier jeu. Honnêtement, on est sur quelque chose de stable. Il n'y a pas de bug. En tout cas, je n'en ai pas eu. C'est joli, c'est bien travaillé. Donc, vraiment, GG à eux.
Ouais, je suis d'accord. C'est assez surprenant pour un... À vrai dire, ça serait un jeu solide pour n'importe quel développeur. Mais là, en plus, pour un... Peut-être qu'ils ont bien joué, comme on le dit dans la chatroom, puisqu'on est comme toujours en live sur Twitch le jeudi midi. Ils ont peut-être pas un budget marketing énorme. Donc, ils ont fait des choix judicieux et ils se sont dit, on va travailler sur le jeu lui-même plutôt que de communiquer dessus. Et puis après, le bouche à oreille et les reviews feront leur boulot. Mais à n'importe quel studio, on se dirait, c'est un bon jeu, un jeu solide. Et là, pour un premier, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de qualité parce que c'est hyper carré, ça fonctionne super bien à tous les niveaux. Comme tu le dis, moi aussi, j'ai joué quelques heures. Je trouve que le gameplay est complètement solide. Il y a plusieurs éléments au jeu. Il y a évidemment le gameplay qui est du combat un petit peu classique, on a attaque légère, attaque lourde, on a plusieurs armes différentes, enfin deux armes différentes, un bâton avec lequel on tape au corps à corps et puis un arc, on a les petits rots dont on va parler dans un instant, qui sont les petites créatures qu'on contrôle, qui peuvent agir aussi dans le jeu, un moveset qui est tout à fait correct, donc au niveau du combat ça passe bien, on a de l'exploration, on a du traversal, donc ce qu'on appelle le traversal, c'est un petit peu comme dans Uncharted, le fait de traverser. Oula, il y a un chien qui s'énerve.
Désolé, c'est mon chien. Excusez-moi, je coupe le micro.
Non, mais il est d'accord avec nous. Il a raison, il faut intervenir. Et on a le traversal, donc le fait de traverser l'environnement. Et puis, on a la partie histoire qui est complètement sublimée par les animations cinématiques qui sont magnifiques. Et là, oui, on sent les petits personnages super mignons avec les mouvements faciaux qui sont hyper, hyper bien foutus et qui te font rentrer dans ce monde. Et puis, au-delà de ça, le monde lui-même est d'une beauté. C'est invraisemblable. C'est tellement beau.
Encore c'est plus beau, c'est coloré. Mais alors moi, je crois que c'est l'un des jeux où j'ai le plus fait de... Oh, tiens, genre, tu les vois là, ces petits trucs là, les petits rots qui sont partout avec leurs petits chapeaux. C'est juste des collectibles, mais tu peux collectionner des chapeaux pour tes petits rots. Ouais. Moi, je me régale.
C'est les petites créatures noires qui la suivent tout le temps, c'est ça, j'ai vu ça. Ouais,
exactement. Okay. Ah non, mais ils sont trop mignons. Vraiment, ça fait trop du bien de voir des trucs mignons, tu vois, comme ça, avec leurs petits chapeaux et tout. Ah non, mais moi, j'adore.
Je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai vu de ma vie, possiblement. Pas parce que c'est les graphismes les plus détaillés ou les plus réalistes, mais c'est juste le style qu'ils ont développé est hyper coloré, stylisé, comme on disait, c'est à mi-chemin entre Ghibli, il y a des influences asiatiques, japonaises. D'ailleurs, le premier personnage qu'on rencontre a un accent un petit peu japonais en parlant anglais. Et puis, cette histoire de chapeau, c'est tout con, mais tu peux... C'est pas genre, t'as un chapeau et tous tes petites bestioles ont le même, tu peux choisir des chapeaux différents pour chacune d'entre elles, et il y en a beaucoup au bout d'un moment qui te suivent, et puis tu peux même t'asseoir et jouer un petit peu avec eux, ce qui est juste, elle s'assoit, et puis il y en a un qui danse sur sa tête, ou qui fait un petit éternuement, c'est juste trop mignon, et le jeu, alors il y a une certaine difficulté dans les combats, mais c'est un petit peu comme le Cozy Corner, c'est assez mus, tu vois, tu te sens bien en y jouant, c'est tranquille, c'est plaisant. Tout contribue à cette atmosphère plaisante du jeu qui est juste du plaisir, du bon moment, et tout fonctionne, quoi. Tout fonctionne dans ce jeu avec en plus ce bonus de beauté incroyable des environnements, des personnages, des animations qui contribuent vraiment au plaisir de jeu, quoi.
C'est ça, quand tu dis que le jeu est très beau, justement, je pense que leur force est là, c'est qu'ils ont réussi à transposer cette patte qu'on peut trouver, par exemple, dans du cinéma d'animation à la Pixar, et en fait, on arrive à le retrouver dans le jeu. C'est une façon de faire la 3D, que sais-je, qui effectivement rend ce jeu, il a une touche en plus par rapport à sa 3D, et alors les scènes d'animation, j'en parle même pas, quoi.
Ouais, on est d'accord. Et il y a une question de style également, de choix d'ambiance, avec le monde qui prend vraiment, qui est plein, quoi, qui prend forme et qui a l'impression d'être, enfin, qui nous donne l'impression d'être riche, d'être un truc vivant. Ouais. Et le style graphique et même le design sonore, la musique est sublime. Et même les sons, je ne sais pas si tu as eu cette impression aussi, mais tous les sons sont à la fois doux, reposants et contribuent à l'ambiance du jeu. Moi, je pense par exemple au moment où quand on ouvre un coffre ou un truc comme ça, elle met un petit coup de bâton sur le sol. Et c'est juste le bruit du bois qui tape sur le sol. C'est un détail, hein, c'est peut-être ridicule d'en parler, mais c'est juste le poc qui... Je sais pas, qui évoque des trucs, quoi, qui contribuent à cette ambiance.
Je pense qu'il y a un côté extrêmement contemplatif. Il y a même un moment dans le jeu où tu peux faire de la méditation, où tu te retrouves en phase de méditation et du coup, tu as différentes séquences, etc. Le menu aussi fait beaucoup ça. Hein. Il y a un menu, effectivement, comme tu disais, tous les sons. Le menu, il n'y a pas de musique, je crois. C'est juste un petit peu les bruits de la forêt, le vent, et c'est hyper agréable. Le sound design est pareil, très travaillé. Et il y a ce côté, effectivement, très reposant qui, parfois, vient être contrasté par des combats avec des boss.
Ouais. Et donc, des petites phases de puzzle, des petites... C'est un environnement, en fait, une grande forêt. On ne l'a pas dit, mais c'est un environnement, c'est une immense forêt où la nature est corrompue par une force maléfique, machin. C'est un peu classique dans le principe, mais c'est très, très bien réalisé. Et donc, on est souvent en train de marcher dans la forêt et d'apprécier l'environnement dans lequel on se déplace dans cette ambiance paisible qui fonctionne très très bien. Donc super bonne surprise, encore une fois, parce qu'on commençait à être inquiet après une première présentation plutôt enthousiasmante. On commençait à être inquiet et donc ils ont peut-être très bien joué parce qu'ils se sont dit on va abaisser les attentes des gens et donc quand il va arriver et qu'il sera juste très bien, parce que soyons honnêtes et on va peut-être conclure sur ça, si le jeu n'était pas le jeu d'un premier studio et qu'il n'avait pas cette excellence graphique, bah ça serait un jeu sympa mais un peu quelconque, peut-être bien réussi, efficace, mais qui ne ferait pas énormément de bruit. Mais oui, là c'est cet aspect là qui fait que ça fonctionne, quoi.
Complètement, je suis complètement d'accord. Il y avait un petit détail, alors c'est pas pour finir sur cette note, quelqu'un qui disait dans le chat qu'il y avait quelques petites pertes de frames. Si vous achetez le jeu et que vous voulez un conseil, notamment sur PC, ne mettez pas les FPS en illimité. Et voilà, n'aurez plus de problème de frames.
Tout à fait, tout à fait.
J'ai eu le souci.
Et j'avoue, à propos de frame, je suis passé en mode... alors, il y a deux modes sur PlayStation, comme souvent, sur PlayStation 5. C'est une exclue PlayStation 5, hein, je ne sais pas si je l'ai dit, au niveau console, pas juste PlayStation. Mais sur PlayStation, je suis passé du mode fluidité au mode fidélité. Et j'avoue que, de là que moi, je me disais, bon, c'est vrai que c'est plus sympa quand c'est plus fluide, bah, c'est quand même bien quand c'est plus beau. Et j'avoue qu'après avoir joué en 60 FPS, passer en mode fidélité graphique... Et en 30 FPS, ça fait quand même un peu bizarre, surtout pour un truc.
Alors, ce n'est plus une exclue PS5. Hein. Il faut savoir que maintenant, il est aussi sur Epic.
Oui, pardon, je voulais dire sur exclue console. Mais sur PC,
excuse-moi, c'est moi qui ai mal compris. Parce qu'à la base, il devait être juste exclu PS5, justement. Mm-hmm. Il y avait tout ça, et maintenant, il est Epic et PS5. Sur Epic, mais effectivement, aussi, il n'est pas sur Xbox. Ouais.
Tout à fait. Le truc en framerate, c'est bizarre parce que quand on passe en mode pendant les cinématiques, il est en 30 FPS. Et c'est pas du tout gênant pour les cinématiques, mais dans le jeu, c'est quand même plus agréable d'être en 60. Bref, super, super beau jeu, une vraie réussite. Moi, je suis assez estomaqué de ce qu'ils ont réussi à faire. Et il est, je crois, dans ma liste dans mon top 10 de l'année. Peut-être que quand on dit c'est un jeu d'un premier jeu d'un studio et puis il y avait les attentes machin, peut-être que je lui rends pas justice parce que au final c'est vraiment un super super bon jeu qui a tout à fait sa place dans mes jeux de l'année, en tout cas. Bon, bah écoutez, parlons d'un autre jeu pour lequel les attentes étaient quand même assez élevées, c'est Eastward, auquel tu as joué, toi, Kevin. Et ça, c'est un jeu qui est très différent, hein, qui essaye d'émuler un petit peu les jeux de la période, on va dire, 16 bits. Là encore, peut-être une petite inspiration animé japonais ou jeu japonais, un mélange entre quoi, on va dire, un petit peu Zelda, un petit peu ce genre de choses. On pense même à Mother, Earthbound. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Eastward?
Ouais, bien sûr. Alors, Eastward, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a quelques années hein, déjà par, par un studio dont je crois que c'est le premier jeu également, hein, il me semble, à ma connaissance. Un studio de Shanghai qui s'appelle Pixpeel. Et c'est édité par Chucklefish, qui est un éditeur et développeur. C'est eux qui avaient fait Wargroove, notamment, qui s'illustrait déjà dans ce côté un petit peu revival de jeux un peu époque 16-bit Game Boy Advance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Wargroove, mais c'était le...
Wargroove, c'était un petit peu Advance le Advance Wars, c'est ça, oui, exactement.
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, c'est un jeu qui avait été annoncé il y a quelques temps et qui, bon, pareil, dont on n'entendait plus trop parler parce que, voilà, c'est une petite équipe dessus qui travaillait à son rythme dessus, voilà, et qui a été rappelé à notre souvenir récemment. Là, je crois que c'était lors d'un Nintendo Direct pendant cet été, où en gros on nous dit « Ah bah au fait, il sort également sur Switch et il sort d'ici bah, un mois à peu près à l'époque. Mmh. » et donc c'était très plaisant d'apprendre qu'il allait sortir très vite.
Ouais, il c'est est sur Switch et Mac et PC. Hein.
C'est ça, exactement. C'est un jeu que moi personnellement j'attendais énormément parce que bah, on le voit là, on voit les images actuellement si on est sur Twitch. Bah c'est super charmant.
Sur Twitch,
quoi.
J'en profite, on a désormais sur YouTube aussi une chaîne de replay qui est dans les notes, si ça vous intéresse de voir toutes images dont on parle. J'ai aussi créé une toute petite chaîne pour mettre les replays de Twitch, donc vous pouvez voir ça comme ça aussi en plus des podcasts. Ouais. Je te laisse continuer.
On peut voir les images tournées et c'est très charmant, quoi. C'est pas le même genre de beauté que ce dont on parlait là avec Kena récemment, mais comme tu le dis, c'est un revival, ouais, 16 bits, c'est ce genre de jeu qui est en... on va dire pixel art, mais qui en gros reprend... En fait, ça correspond un peu aux souvenirs qu'on a de la 16-bit, mais qui sont déformés. C'est un peu le jeu, les souvenirs idéalisés de ce qu'on avait de l'époque, parce que une Super NES ne fait jamais tourner la moitié d'un jeu comme Eastward. Il y a plein d'effets, notamment de lumière et tout, qui sont appliqués dessus et qui sont utilisés de manière très judicieuse, je trouve, et qui font du jeu... un truc vraiment super beau et super agréable.
Je suis d'accord, je suis époustouflée par la colorimétrie du jeu, en fait.
Ouais.
Il y a des nuances de couleurs hyper belles, c'est très détaillé. Vraiment, ouais, si vous êtes sur le podcast, allez regarder parce que c'est hyper beau.
Ouais, c'est vraiment super beau. C'est sûrement ce qui attire, c'est ce qui a dû attirer la plupart des gens qui en avaient entendu parler en premier lieu. Voilà, ce truc qui était arrivé encore une fois il y a quelques années, un développeur inconnu qui dit « Regardez, on bosse là-dessus, c'est magnifique. » Et il se trouve que, donc, pour parler du jeu lui-même, c'est un jeu d'aventure qui va, tu le disais, hein, Patrick, juste avant, qui évoque vraiment un Zelda disons qu'il évoque un Zelda dans son système de combat, puisqu'on va on va avoir des attaques au corps à corps avec une poêle, effectivement. Une poêle à frire, voilà, c'est ça. Où on va pouvoir utiliser des objets comme des bombes ou des choses comme ça pour à la fois éliminer les ennemis ou résoudre de petites énigmes de traversée du monde. Maintenant, dans le déroulé du jeu général, on va plus penser à du RPG japonais, dans vraiment le déroulé de ville en ville, enfin de village en village, disons, puis passer par des donjons, etc., etc. Il n'y a pas ce côté exploration du monde comme un Zelda où on va débloquer un objet qui va nous permettre d'explorer une nouvelle partie du monde et tout ça. C'est beaucoup plus linéaire. Et en gros, on y contrôle un certain John ça a l'air d'être un quadragénaire, cet homme-là, qui est muet, c'est-à-dire qu'il ne...
Il parle pas, ouais.
Alors, c'est un Link, quoi. Il n'est pas, ouais, voilà, il n'est pas muet dans le monde, mais c'est un héros muet, quoi. Et il est accompagné de Sam, une petite fille qu'il a littéralement trouvée dans la rue, et dont on comprend assez vite qu'elle a des pouvoirs un petit peu particuliers. Et on commence le jeu dans un village qui se trouve sous terre, et dont le maire du village est très protecteur jusqu'à être un peu violent parfois de ses habitants, en disant il ne faut surtout pas aller à la surface, c'est très dangereux, si vous y allez vous mourrez, et si vous voulez trop faire n'importe quoi, moi je vous y exile et ça va mal se passer pour vous. Seulement la fameuse Sam, la petite qui accompagne John, dit Bah non, moi j'y suis allé à la surface, c'est super beau. Il y a un ciel bleu, il y a de l'herbe, c'est magnifique. Et donc voilà, ça part sur ces prémices-là. On imagine bien qu'évidemment, il va s'agir d'aller à la surface et d'explorer cette surface. Et c'est d'un charme absolu. C'est incroyable. C'est super beau. Donc déjà, on l'a dit, la relation entre Sam, cette petite fille, et John, qu'on incarne, donc, est super touchante. Elle est très juste, je trouve. Et elle est même portée un peu par le gameplay, parce qu'en fait, on va contrôler les deux persos en même temps, et on va pouvoir switcher de l'un à l'autre. On va même avoir une touche pour les séparer, pour résoudre des petites énigmes et tout ça. Et il y a des petits détails. Alors, c'est vraiment du détail, ça rejoint un peu ce dont tu parlais tout à l'heure avec le bruit du bâton. C'est que, traditionnellement, dans un jeu comme ça, on contrôle, disons, John, et Sam nous suit. Traditionnellement, dans un jeu comme ça, la hitbox, ce qui peut se faire toucher, ça va être que le perso qu'on contrôle. Le perso qui nous suit est, entre guillemets, n'existe pas. Là, non, en fait. Les deux persos peuvent être touchés et partagent une barre de vie, et ça renforce vraiment ce côté protection qu'on peut avoir envers, envers Sam. Et c'est tout un tas de petits détails comme ça qui font que le jeu est d'une tendresse folle, d'une justesse vraiment impressionnante, et n'usurpe pas du tout les influences assez évidentes et assez ambitieuses qu'il a quand il va aller piocher du côté des Mother, tu le disais, Mother Earthbound, qui sont des jeux aussi très 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 justes et très tendres aussi dans le même genre de sensibilité. Et d'autres jeux avant lui ont essayé de piocher dans les mêmes influences en s'en sortant un peu moins bien. D'autres l'ont très bien réussi aussi, comme notamment Undertale, bien sûr. Et donc voilà, c'est vraiment une réussite, je trouve, à quasiment tous les niveaux, notamment ce qui était le plus inquiétant, donc c'est-à-dire l'héritage de Mother, qui est complètement assumé, parce que dans le jeu, on peut jouer à un jeu vidéo aussi, qui est interne au jeu, qui s'appelle Earthborn, et qui donc est vraiment... Enfin, le jeu ne se cache pas du tout d'aller puiser dans ces influences-là. Et donc, vraiment, voilà, c'est superbe, je trouve.
Et du coup, ma question pour conclure, c'est tu joues au jeu pour les combats, pour l'histoire, pour qu'est-ce qui motive finalement, qu'est-ce qui est le cœur du truc sur la progression sur le long terme.
Alors, je dirais que c'est un peu comme pour les Mothers, justement. Ça va être plus pour l'histoire elle-même et l'ambiance plutôt. C'est-à-dire que tu te retrouves, c'est un peu ce que tu disais sur le ce que tu utilisais pour qualifier le Cozy Corner, et je te remercie encore. le côté vraiment cocon, confort, quoi. On est très content de retourner dans ce monde-là. Là, il se trouve que l'histoire d'Histoire, c'est marrant à dire ça, l'histoire d'Histoire est très chouette aussi. Il y a un mystère qui arrive assez vite, qui se dessine assez vite et dont on a envie de percer, quoi. Mais c'est surtout l'ambiance, je trouve. Il y a un truc dans les personnages, il y a vraiment beaucoup de vie, quoi. C'est un jeu dans lequel c'est un petit cocon, on est content d'y retourner. Personnellement, ça me fait vraiment l'effet de, je sais pas si vous vous souvenez de ces jeux genre les Polly Pocket ou les Mighty Max. C'était des petites boîtes.
Ouais, complètement,
ouvrait.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Hein. Et il y avait un petit monde dedans. Et comme le principe de la maison de poupée, en fait, quoi. Et on se projette dedans et c'est super, quoi. On est à l'aise, il ne peut rien nous arriver dans ce monde-là. C'est toujours l'heure du goûter, quoi. Quand on y joue, c'est sucré. et c'est vraiment ça, je trouve, l'intérêt principal du jeu. Le gameplay étant sympa, mais pour moi, clairement, s'il faut trouver un maillot un peu plus faible du jeu, ce serait clairement gameplay. Il y a de très bonnes idées, je trouve, de petites énigmes et tout ça, et de comment dire, d'ennemis, de patterns d'ennemis et tout ça, mais par contre, la prise en main elle-même, le fait vraiment la concrétisation des combats est pas folichonne, quoi. C'est D'accord. pas vraiment, c'est pas ça qui va nous faire rester sur le jeu.
Okay.
Voilà. Mais vraiment, je ça me fait presque de la peine de finir là-dessus sur cette note un peu négative. Tout le reste est merveilleux, quoi. C'est vraiment c'est d'une encore une fois d'une tendresse folle, quoi. Vraiment.
J'ai une question. Il y a une sorte de petite séquence dessin animé qu'on ouais. peut voir dans le test avec lequel j'illustre nos discussions sur IGN. C'est juste l'intro ou on en a aussi au cours du jeu de ces parties un petit peu dessin animé ?
Alors, c'est juste l'intro. Alors, en fait, c'est ce que je te disais juste avant de commencer l'émission. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas encore fini. Je suis à la toute fin.
Non, d'accord, mais je veux dire, c'est pas.
Et donc, c'est pas régulier dans le jeu. D'accord. Ouais, voilà, c'est ça. J'imagine s'il est possible qu'il y en ait aussi à la fin. Tu vois, donc ça, je peux pas le dire. Mais jusqu'ici, et je crois vraiment être à la toute fin du jeu là, je n'ai vu ça que dans l'intro. Non, et l'intro est très chouette d'ailleurs. Voilà, le reste du temps, c'est toujours la même la mise en scène est toujours la même, c'est-à-dire voilà, cette vue un peu du dessus.
À la Zelda, quoi.
À la Zelda, voilà, c'est ça, exactement.
Super, donc c'est sur Switch et sur PC, et ça s'appelle Eastward. J'imagine qu'on essaye d'aller vers l'Est dans le jeu.
C'est le cas, mais en fait, je me demande si Eastward, le Ward, ne pourrait pas vouloir dire quartier aussi.
D'accord.
Ça peut vouloir dire les deux choses, et mais encore une fois, là, je ne sais pas encore exactement. Mais,
très bien.
Disons qu'on va tout le temps vers la droite. Si on considère que l'Est est la droite sur une carte, on peut considérer qu'on va toujours à l'Est, effectivement.
Très bien. Écoute, merci beaucoup pour cette petite tes impressions sur Eastward. Ça donne encore envie. Hein. Moi, je suis encore en train d'ajouter des trucs à ma liste de jeux auxquels j'aimerais jouer si j'avais le temps. Mais vous savez quoi ? On va en avoir encore un qui va s'ajouter puisque Trinity va nous parler d'un jeu. En fait, j'ai vu des news sur le jeu. Je l'ai ajouté à la liste et je me suis dit, ça, c'est un jeu pour Trinity. Et donc, on va parler de Gas Station Simulator, un jeu où on gère une station-service. J'imagine que c'est genre dans le sud-américain, c'est pas non plus la station-service au milieu de Paris.
Ouais, exactement, c'est la station-service au milieu du désert, avec des voitures qui s'arrêtent, etc. Alors, que dire sur ce jeu ? Parce qu'il n'y a pas une belle histoire pleine de charme comme dans Eastward, ou des graphismes à couper le souffle comme dans Kena. Mais moi, vous connaissez mon amour, effectivement, pour les jeux de simulation. Et celui-ci regroupe un petit peu tout. C'est-à-dire que on est tout simplement un mec qui s'arrête, qui voit qu'il y a une station essence à vendre et qui décide de l'acheter. Donc, on peut acheter, effectivement, cette station, la retaper, la rénover. Moi, j'en suis encore au début. Hein, j'ai attaqué hier. Donc, on va avoir plein de choses à vendre. Il va falloir faire du stock. On va devoir même faire la caisse, c'est-à-dire mettre les objets, faire rouler le tapis, le nettoyer et en même temps passer les objets, biper, etc., sans faire d'erreur, nettoyer sa station essence, mettre de l'essence, bien évidemment, aux gens.
C'est toi qui fais le service. C'est qualité, hein, Gas Station Simulator.
Exactement. Donc, tu fais le service. Il y a vraiment un système de jauge, etc. Et puis, tu dois... En fait, au-delà de ça, il y a aussi d'autres choses. Donc, après, il y a un côté, une partie garage et une partie stockage, etc., au fond. Il y a vraiment un aspect gestion qui prend de plus en plus d'ampleur parce qu'au début, tu as juste une petite armoire avec des boissons, mais après, tu as les boissons, les cigarettes, l'alcool, les glaces, etc., etc. Il y a de plus en plus de choses. Et le truc, c'est qu'il faut, par exemple, que ce soit bien fourni, qu'il y ait des trucs variés pour que les gens achètent. Enfin, tu vois, ça prend en difficulté. Et hier, je commençais un peu à faire une crise d'épilepsie à force. À essayer de tout gérer. Tu sais, tu dois nettoyer ta boutique. Hop, hop, hop. Tu dois en même temps aller à la caisse, encaisser les gens et t'occuper de ton stock, stocker. Appeler un camion pareil pour remettre de l'essence dans ta station. Bref, c'est un jeu pur de gestion et ensuite un petit peu de comme House Flipper, il y a ce côté on repeint les murs de façon très légère et on décore un petit peu. Mais si vous aimez les jeux de gestion comme moi et que passer des paquets de chips à la caisse vous fait plaisir, n'hésitez surtout pas. Moi, je me régale sur ce genre de jeu.
Ouais, donc c'est vraiment, comme tu le disais, hein, les jeux de gestion de ce type-là qui sont assez, je dirais, c'est assez étrange que ça existe, mais il y en a plein, et c'est comme House Flipper, même comme un petit peu PC Building Simulator, ce genre de truc, dans des domaines différents. Et du coup, bon, t'as que quelques heures d'expérience dessus, mais tu le trouves réussi ou c'est genre, c'est un bon jeu de ce type qui serait intéressant pour les gens qui aiment les jeux de ce type tout court, ou est-ce que c'est l'aspect station-service dans le désert un petit peu pourri qui te crée une ambiance qui va te donner envie et donc c'est pour ça que tu vas vouloir jouer au jeu, et si c'est pas ton truc, ça, bah, t'as pas vraiment d'attrait du jeu.
En fait, par exemple, moi, pour dire, j'adore les jeux de simulation, mais je n'aime pas tous les jeux de simulation parce qu'il y a des thèmes qui ne me parlent pas, tu vois. Et là, moi, clairement, l'aspect désert américain, j'adore. Le côté, la station, voilà, vraiment à l'américaine, c'est cool. Honnêtement, je trouve le jeu quand même, pour l'instant, de ce que j'en ai vu, plutôt réussi. Il y a pas mal de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup d'aspects de gestion. Donc, pour un jeu de simulation, il est quand même très cool et plutôt réussi. En tout cas, j'ai envie d'y jouer. C'est-à-dire que là, dès que j'arrête ce podcast, je vais jouer à Gas Station Simulator. Voilà.
Très bien. Tu vas filer sur Gas Station Simulator.
Exactement.
Alors, on pourrait se dire que le jeu n'est disponible que sur PC. Parce que vraiment, c'est le genre de truc, c'est vraiment un jeu. Ouais. Eh bien, figurez-vous qu'il est également disponible sur PlayStation 4 et Xbox One. Donc, c'est surprenant.
Tu m'apprends quelque chose. Je ne le savais pas. Tu vois. D'accord.
Donc, vous pourrez en profiter même si vous êtes sur console.
Voilà. Eh bien, parfait. C'est le moment de vendre des chips à 8 euros, les gars.
Parfait. Moi, je vais vous parler encore d'un jeu que j'ai pu tester un petit peu. C'est un jeu pour lequel j'avais de, on va dire, pas de grands espoirs, mais des espoirs quand même. C'est Castlevania. Comment il s'appelle déjà ? Grimoire of Souls. Castlevania Grimoire of Souls, c'est un jeu qui est sur Apple Arcade et qui a été en fait développé à la base pour iOS en tant que free-to-play par Konami et qui a été recyclé. Apple est sans doute allé les voir en leur disant « On veut des grosses IP pour Apple Arcade. Si vous nous convertissez ce jeu, ça devrait être facile. » Et on aura un jeu en plus sur notre plateforme. Évidemment, on rappelle, vous le savez, hein, mais l'Apple Arcade, c'est un abonnement à 5 euros qui vous donne accès à tous les jeux Apple Arcade qui sont bien sûr des jeux qui n'ont pas de microtransactions incluses, contrairement à la majorité des jeux sur mobile. Et donc là, c'est un jeu qui est un vrai Castlevania, entre guillemets, mais c'est pour ça que moi j'étais assez, j'avais beaucoup d'espoir, voilà, pour ce jeu-là, parce que quand on regarde le gameplay, c'est du Castlevania tout court. C'est pas un truc, ils ont pas transformé ça en puzzle game pour l'adapter à iOS. C'est un vrai jeu comme les Castlevania classiques qui sont sur console. Et donc, je me suis lancé dedans, et effectivement, il y a, en fait, pour résumer, je dirais qu'il y a deux parties à ce jeu. Il y a la partie le jeu lui-même, c'est-à-dire on joue l'un des personnages de Castlevania, petit spoiler, il y en a plein qu'on peut jouer, plein de différents, il y a tous les Belmont, il y a Alucard, il y a, je ne sais plus comment elles s'appellent, les gamines qui se battent contre les démons aussi avec des animaux et ce genre de trucs. Et on a accès à tous les persos différents qui ont des styles de combat différents. Et pour le gameplay en lui-même, on peut jouer avec l'écran tactile. Ça fonctionne correctement pour un écran tactile. Bon, après, ça reste un écran tactile avec lequel il faut gérer. Si on n'est pas habitué, si on est plus habitué aux manettes, ça peut être un peu compliqué. Mais on peut aussi connecter une manette. Et quand on a la manette connectée, ça fonctionne super bien. On a vraiment l'impression d'être sur un Castlevania complètement classique avec tout ce qu'on aime dans les Castlevania, plein de coups différents, des objets spéciaux, des combos, des sauts, des dashs. Enfin, tous les ingrédients y sont. Le truc.
Y compris l'exploration dans un Metroidvania ou
alors c'est un peu plus linéaire.
Classique. Oui, d'accord.
Non, c'est un peu plus linéaire. C'est-à-dire que, évidemment, on est quand même sur une plateforme mobile, hein, faut pas l'oublier. Donc, on a des niveaux qui prennent chacun 5 minutes à peu près, enfin, en tout cas, au début, pour aller du début à la fin. Et c'est par niveau, effectivement. C'est pas tout un château qu'on va explorer. Mais bon, ça, comme je le dis, je pense que ça s'explique vraiment logiquement par le fait que ça soit une plateforme mobile. C'est pas, on n'a pas autant de liberté dans nos sessions de jeu. Mais à côté de ça, le problème, c'est que on sent vraiment l'héritage du jeu conçu pour être un free-to-play avec des tonnes de monnaies différentes, des systèmes d'upgrade d'armes, d'équipements, de capacités qui sont de plus en plus puissantes. Il va falloir collecter des âmes de différents ennemis pour upgrader les différentes armes, les différentes capacités. On va avoir des systèmes où on va collecter plusieurs armes différentes qui ont différents niveaux de puissance, etc., etc. Enfin, tous les aspects qui ne nous plaisent pas tellement dans les jeux free-to-play qui ont été... Alors, je rappelle, hein, c'est plus un free-to-play puisqu'il est dans Apple Arcade. Tout ça a été converti en version... on n'a pas besoin de payer en plus. Il faut juste jouer pour avoir les différentes monnaies, les différentes armes, les différentes pierres d'upgrade et les machins comme ça. Et donc, c'est pas le fait que ça soit payant, c'est juste que ça vient, j'ai envie de dire, oui, polluer le plaisir du jeu. C'est-à-dire qu'on a les différents niveaux qui sont vraiment sympas et on doit ensuite arriver à l'écran de sélection des niveaux, sélection des personnages, tout ça. Et là, c'est une sorte de, schéma de construction d'ingénieur où tu as plein de menus auxquels tu comprends rien, des endroits où il faut aller pour choper tes quêtes quotidiennes qui te donnent des récompenses qui vont te permettre d'upgrader tel et tel truc, etc. Et donc, c'est un coup d'arrêt à ton plaisir du jeu où tu fais une sorte de gestion, mais pas gestion intéressante comme les chips à 8 euros de Gas Station Simulator, de gestion vraiment juste casse-couille, où tu dois... si ça avait été conçu dès le départ dans l'esprit de on va amener un aspect gestion, upgrade, gestion de son matériel dans ce jeu, je suis sûr que ça aurait pu être très cool avec pas énormément de modifications, mais là tu sens que ça a été fait comme système de monétisation et donc c'est pas vraiment agréable et ça se ressent. C'est vraiment dommage parce que en dessous de tout ça, il y a un jeu qui est juste cool et qui est surprenant pour un jeu mobile. Donc je sais pas si c'est un truc qui vous arrêtera, vous, si vous vous dites ok, c'est trop pénible et j'y prends pas de plaisir à cause de ça, mais peut-être que ça ne posera pas tellement de problèmes à certains et dans ce cas-là, on peut trouver le plaisir dans un vrai Castlevania assez cool. Donc je suis un petit peu ambivalent sur ce jeu. Ma conclusion au final, j'ai dit qu'on peut y jouer à la manette, hein. Ma conclusion au final, c'est que j'ai juste trop de jeux cool à faire en ce moment. C'est pas un mauvais jeu. Et si j'avais pas plein d'autres jeux cool à faire, je pense qu'il est pas impossible que j'y passerais un petit peu plus de temps que ce que j'ai fait maintenant. Mais là, malheureusement, si j'ai du temps sur mon mobile, je crois qu'il y a d'autres trucs même mobile, qui pourraient me plaire un petit peu plus. Je crois. Mais bon, donc voilà, en gros, ma conclusion sur Castlevania Grimoire of Souls.
Si je peux m'immiscer deux secondes, je trouve tout ce que tu dis est très intéressant parce que ça révèle quelque chose de vraiment important. Je trouve c'est que au-delà de ce que peut constituer de problématique le principe du free-to-play avec les paiements et tout ça, ce qui peut inquiéter, c'est clairement la manière dont ça influe sur les mécaniques de jeu. Et je ne sais pas si on en parle assez de ça, cette espèce d'uniformisation des mécaniques et tout ça, et qui, là, on voit bien, en l'occurrence, que c'est ce que tu dis depuis le début, ce qui gâche un peu ce jeu, c'est ces mécaniques de jeu qui sont vraiment induites par le fait qu'à la base, il était prévu pour qu'on dépense le plus de sous possible de manière cyclique. Et ça, je trouve que du coup, c'est dommage pour lui, mais ça le rappelle très bien, manifestement, ce jeu-là.
Complètement, c'est vraiment un exemple, et on en a vu plusieurs sur Apple Arcade, des jeux qui ont été convertis d'une version free-to-play qui a été adaptée pour être là sur Apple Arcade. Je trouve que de tous ceux que j'ai essayé, j'en ai pas essayé des tonnes, mais de tous ceux que j'ai essayé, c'est celui qui en souffre le plus quand même, parce que là, c'est vraiment, tu sens que Konami s'est dit, on va mettre des microtransactions absolument partout. Moi, je suis convaincu qu'il est possible de faire un jeu avec des microtransactions qui soient, sur mobile, généralement, c'est pas l'habitude, mais il est possible d'en faire un qui soit correct au niveau des microtransactions. Là, c'était pas le chemin qu'ils avaient pris, c'était vraiment handicapant. Et malheureusement, si tu veux, s'ils avaient passé plus de temps sur l'adaptation, s'ils avaient plus viré la quantité de trucs la quantité de temps qu'il faut passer dans la partie gestion des armes et des capacités, ça aurait pu tout à fait fonctionner. Mais ça aurait demandé plus de travail de le faire rentrer, en fait, dans ce format.
Dans ce format-là. Et il y a quelque chose qui était un peu inquiétant avant même sa conversion sur l'Apple Arcade, c'est que le jeu était sorti, et je crois que quasiment à peine un an plus tard, il avait été retiré à l'époque dans sa version free-to-play. Ouais.
Alors, il avait été sorti en une sorte de test early access dans deux ou trois pays, et quelques mois après, il a été annulé par Konami, en fait.
C'est ça. Bon, après, c'est Konami, les déboires de Konami, le jeu vidéo, on connaît un peu.
C'est ça, exactement.
Mais donc, il y avait effectivement, quand tu dis ça manque de temps de travail dessus, c'est que, bon, bah, manifestement, Konami... c'était pas leur priorité.
C'est,
quoi. Ouais.
C'est dommage parce que Apple Arcade, justement, le but est de te fournir des expériences qui sont très très loin de ce type de mécanique. Et concrètement, sur le papier, bah oui, il n'y en a pas des mécaniques de paiement supplémentaires. Mais bon, on a quand même le spectre un petit peu laid de ce type de mécanique qui est dans le jeu. Quoi. Donc, voilà pour Castlevania Grimoire of Souls. Il y a quelques autres jeux qui sont sortis cette semaine, que je n'ai pas vraiment eu le temps de faire, mais qu'on va mentionner tout de même. Il y a d'une part Sable, qui vient d'arriver, dont les reviews sont un petit peu, on va dire, ambivalentes. Vous vous souvenez, Sable, c'est Sable, c'est ce jeu avec des graphismes très Mobius, qui était très prometteur. Et qui est arrivé, qui est sorti là. Les reviews, on va dire, il y a des problèmes techniques. Bon, on va pas passer deux heures dessus, à moins que quelqu'un les teste. Mais il y a certaines. En gros, il a des très bons côtés, des côtés charmants et des côtés problématiques. C'est un jeu qui serait sans doute à conseiller aux gens qui sont déjà séduits par le truc à la base suffisamment pour passer outre des problèmes techniques et peut-être un gameplay un petit peu faible d'après les reviews.
Alors moi j'y ai pas joué, mais c'est vrai que c'est très joli. Ouais. C'est vrai que c'est très joli, mais que ça n'a pas l'air incroyable à côté de ça. Ouais.
C'est ça.
Et ce que je trouve marrant, c'est que ça sort en même temps que Dune et que ça annonce peut-être une sorte de mouvance sandpunk éventuellement à venir.
Sandpunk, pas mal. Écoute, si ça peut nous donner plus de Mad Max, moi, je suis pour.
Pourquoi pas, voilà, c'est ça.
On a aussi Lost Judgment qui est sorti également. Lost Judgment qui est donc la suite de Judgment. J'en ai entendu des choses pas super. J'ai notamment vu la longue review de Skill Up qui est généralement très très bien sur les reviews avec lequel je suis assez en phase. Il a vraiment pas que des bonnes choses à dire sur le jeu au niveau de l'ambiance. Alors encore une fois, ça c'est un jeu, on en parle en deux secondes parce qu'on n'y a pas joué. Mais il y a une sorte de dissonance étrange entre les sujets qu'il essaye de tacler, comme le harcèlement à l'école, et le fait que dans le jeu, ça se traduit par l'enquêteur joué par Kimura Takura, Takuya, le personnage principal, qui va dans les écoles et qui va taper les bullies. Qui va ce qu'il fait, c'est qu'il va et il leur tape dessus. C'est les scènes de combat à la Yakuza première époque. Et il leur tape dessus. C'est comme ça qu'il règle les problèmes. Donc, et le problème du harcèlement au Japon à l'école, c'est un gros problème en ce moment. Oui. Et donc, pas que au Japon, mais spécifiquement au Japon, puisque c'est de là que vient le jeu. Bref, il y a des gens qui le trouvent très bien, et je suis sûr que si on aime le genre, on sera séduit. Mais moi, ça m'a quand même mis un petit drapeau d'alerte. Me demandais si ça serait le Judgment auquel je jouerais. Et là, je me suis dit, je vais peut-être laisser passer celui-là. Quoi.
Peut-être pas, ouais. Alors, je l'ai commencé, moi, et au-delà de ça, je trouve qu'il y a aussi des trucs qu'on peut trouver gênants dès le début dans le gameplay, dans la routine yakuzesque et judgmentesque maintenant. Il y a des phases d'infiltration parce qu'on est un détective, il y a des phases de parcours parce qu'on est un détective manifestement sportif. tout ça est pas forcément incroyable, je trouve. Mais je pense qu'en fait, y compris la dissonance un peu dont tu parlais avant, tout ça, c'est un peu le package Yakuza, hein, j'ai l'impression la série se vautre souvent dans ce genre de truc, à la fois dans les phases de jeu un peu discutables, dont l'intérêt est un peu discutable, et à la fois dans le propos pas toujours clair. Je pense que les gens qui qui sont coutumiers ou coutumières de la série savent où ils mettent les pieds et ils trouveront exactement ce qu'ils sont venus y chercher, quoi. Mais c'est effectivement pas forcément l'épisode le plus agréable de la série.
Ouais. Je crois que le truc qui me gêne, les Yakuza, j'en ai essayé plusieurs. Ce qui me gêne là, c'est cette histoire de harcèlement à l'école, qui est un sujet sérieux que tu essayes de traiter avec sérieux. Sauf que là, il fait un petit peu n'importe quoi. Alors qu'on a eu des jeux qui faisaient ça avec une certaine gravité dans le ton. On pense notamment à Persona 5, qu'il traite très très bien. Et là, ça semble être fait avec une légèreté pas criminelle, mais en tout cas coupable, quoi.
Ouais, mais c'est quelque chose, je trouve, hein, personnellement, qui est commun à la plupart des épisodes de l'univers Yakuza, hein, parce qu'à chaque fois, ça aborde au moins un sujet important comme ça. Et en fait, c'est un peu le lot de ces jeux-là qui abordent des sujets importants, mais qui proposent en même temps plein de mini-jeux complètement décalés, complètement débiles, entre guillemets, qui en fait... dans l'ensemble, sont des jeux qui se veulent aussi un petit peu débiles, entre guillemets, quoi. Tout au long du jeu, le Yakuza 7 faisait un peu ça aussi. Il commence de manière très sombre, très sombre et très sérieuse sur les SDF et tout ça. C'est un discours plutôt chouette. Mais à côté de ça, il y a des choses qui, de manière ludique, viennent contredire tout le discours un peu plus sérieux, quoi.
Moi, j'avais l'impression que généralement, c'était séparé. Tu sais, il y avait les sujets sérieux et puis à côté, les mini-jeux débiles. Et il y avait vraiment une sorte de dichotomie dans les jeux Yakuza, qui était certes parfois un petit peu déconcertante, alors que là, en tout cas, encore une fois, moi j'y ai pas joué, mais c'est l'impression que j'ai et que j'ai eue dans les reviews, on est vraiment au milieu du sujet sérieux, et je reprends cet exemple, mais quand il y a du harcèlement et que ta manière de gérer le harcèlement, c'est tu tapes les gamins qui sont littéralement des enfants, tu sais, ont 15, 16, 17 ans, et que tu vas leur taper dessus comme un Yakuza, comme dans un jeu Yakuza avec le système de combat où tu leur écrases la tête sur les murs. Tu vois, c'est un peu... Bon.
Oui, c'est clair. Bien sûr. Bah, ça a l'air d'être... pour moi, il y a toujours eu un peu de porosité entre les deux aspects de Yakuza. Là, ça a l'air d'être complètement, je veux dire, ça a l'air d'être complètement mélangé. Et c'est vrai que bon, ça devient problématique.
Tu vas mettre des caméras dans les toilettes, c'est ce genre de truc.
Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai pas encore vu tout ça. Oui, non, c'est terrible. Ah oui, donc je pensais pas que c'était à ce point-là. Ouais, non, c'est terrible.
Tu te la joues, Docteur Disrespect, quoi. Alors, on a aussi un autre jeu. Alors, je vais juste le mentionner parce que je ne peux pas ne pas le mentionner. C'est Final Fantasy XIV Endwalker, l'extension qui est disponible désormais et dont tout le monde parlait depuis bien longtemps. Donc, les gens qui sont tombés dans Final Fantasy, je suis sûr, sont hyper contents d'avoir enfin cette conclusion à l'arc narratif Final Fantasy XIV. Il y a aussi deux jeux qui sont disponibles sur Game Pass. C'est Skatebird et I Am Fish qui sont aussi des petits, on va dire, des petits darlings de l'indé. Skatebird, c'est un jeu où on joue un oiseau qui fait du skateboard. Voilà, c'est assez clair. Je l'ai testé, là encore, 2 minutes, et c'est pas mon truc, hein, le skateboard. Ça m'a paru être, au-delà de l'oiseau, ça m'a paru être vraiment un jeu de skateboard, quoi. Donc, faut pas s'attendre à quelque chose de différent, de surprenant avec les oiseaux. C'est vraiment juste la différence avec les autres jeux de skateboard. C'est qu'on est un oiseau sur le skateboard au lieu d'être un skater un petit peu, pop-punk des années 90. Bon, on est un oiseau. Et il y a aussi I Am Fish qui m'avait, je vais pas dire tapé dans l'œil, ça serait pas juste, mais que j'avais, on va dire, regardé, intrigué, parce que c'est, je sais plus comment il s'appelle le développeur, c'est celui qui avait fait I Am Bread, et c'est pas eux qui ont fait Goat Simulator, en parlant de simulateur, je crois
et
que c'était...
Je sais plus, tu me mets le doute. Je crois que c'était... Mais déjà, I Am Bread, moi je l'ai, j'y ai pas mal joué, je le trouve vraiment cool.
C'est vrai ?
En fait, c'est drôle. Alors, c'est typiquement pas le genre de jeu où tu vas passer 6 heures. Il y en a qui peuvent, hein. Mais je trouve que, tu vois, pour y jouer 1h30, 2 heures, c'est drôle, etc. Donc, je vois tout à fait le genre de gameplay que c'est vraiment une sorte de puzzle. Tu vas avancer, et puis il y a des petites scènes qui se jouent autour de toi. C'est assez drôle, quoi.
Ouais, voilà, c'est tu explores le monde. C'est un petit peu comment dire, c'est un petit peu un jeu de physique. C'est Surgeon Simulator, pardon. C'est pas Goat Simulator, c'est Surgeon Simulator qu'ils ont fait avant et I Am Bread. Et c'est un jeu avec un truc physique. On est dans un bocal, on est un poisson et on fait déplacer le bocal en nageant dedans à l'intérieur. Et puis on doit essayer de rejoindre la mer. Et puis à chaque fois, ça recommence ce genre de truc. Et puis on a différents types de niveaux. Parfois, on n'est plus dans le bocal, parfois on a... Enfin bref, j'ai pas trouvé ça totalement fou, mais c'est en gros ce type de jeu basé sur la physique et c'est du parcours. De ce que j'ai vu, encore une fois, c'est pas si différent de... comment il s'appelle, Monkey Ball c'est à ça que ça m'a fait penser.
Il sort dans
c'est très très vieux, hein, Monkey Ball. Mais...
dont un épisode sort bientôt, d'ailleurs. Sur
ouais,
Switch.
Ouais, c'est une exactement. Édition, je crois. Ouais. Exactement, ouais. Il est peut-être déjà sorti avec plein de personnages de Sega qui sont Sega, dans la petite boule. Donc voilà pour I Am Fish. Bon, encore une fois, ça c'est même pas des impressions. Je peux même pas dire que c'est des impressions. J'y ai passé une heure, mais c'est pour mentionner que ce sont ces sorties dont on ne peut pas vraiment parler parce qu'il y a juste trop de trucs qui sortent en ce moment.
Ah ouais, c'est clair.
Est-ce que vous savez un autre truc qui est extrêmement intéressant et disponible maintenant ? C'est le Patreon du rendez-vous jeu, qui a quand même des avantages bien plus importants que des jeux comme Castlevania, Green War of Souls ou les autres dont on a parlé. Les avantages, c'est que vous avez droit à l'accès à un flux privé où il y a zéro pub. Il n'y a même pas ce petit passage au milieu où on fait la promo du Patreon. Et vous avez zéro pub. Vous avez les time codes pour passer d'un moment à l'autre de l'émission. Vous avez des contenus bonus qui sont ajoutés au flux avec des éditos où je vais vous parler un petit peu de la manière dont je conçois mes émissions, la manière dont je conçois ma production, comme mes états d'âme un petit peu aussi, enfin des contenus bonus plutôt cool. Et puis évidemment, encore plus important que tout ça, le plaisir de participer à au financement, à la vie de cette émission. Si vous l'appréciez et vous savez qu'elle est disponible gratuitement, alors il y a la pub hein, pour le flux public, mais la pub ça rapporte pas des millions non plus. Et moi, pour mon style de vie, pour pouvoir aller acheter les chips à 8 €, il me faut des millions. Bon, peut-être pas des millions, mais si vous me donnez de l'argent, en gros, j'accepte de le prendre et de payer mes choses avec. Et en plus de ça, le plus important, c'est que vous participez à un type de contenu qui est assez différent de ce qu'on trouve ailleurs dans le monde de l'Internet, qui est un truc indépendant que je fais presque moi tout seul dans ma chambre avec l'aide de personnes que je peux rémunérer, et notamment Fanny qui est là dans la chatroom, qui m'aide énormément et qui me permet de produire encore plus et encore plus sérieusement en ajoutant par exemple la vidéo sur Twitch ou sur YouTube, en faisant des trucs de plus en plus cool comme des petits effets sonores comme celui-ci là que vous entendez maintenant. Vous voyez, ça serait pas possible si vous ne me souteniez pas sur Patreon. Donc, pour encore plus d'effets sonores vraiment sympathiques, vous pourriez aller sur patreon.com/rdvjeux et soutenir l'émission. Là, si je vous ai pas donné envie, franchement, je sais pas ce que je peux faire. Hein, donc,
ah ouais,
patreon.com/rdvjeux.
On peut pas faire mieux, là.
Bon, donc voilà pour notre petit laïus sur Patreon. J'espère que ça vous aura en tout cas intrigué, que vous irez jeter un coup d'œil. Et si vous n'allez pas sur Patreon, allez au moins regarder sur le Discord. Le lien est dans les notes de l'émission, hein, bien sûr, comme celui du Patreon. On a une communauté super cool et super sympa, qui, je pense, dans laquelle vous vous sentirez bien. Donc, allez jeter un coup d'œil et je pense... vous apprécierez ce petit serveur Discord qui est hyper, hyper sympa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on continue avec la suite du programme. Je voulais parler de l'anniversaire de THQ Nordic, qui a maintenant 10 ans. Vous savez, THQ Nordic, c'est la boîte en fait qui a racheté toutes les assets de THQ et qui, à l'occasion de leurs 10 ans, ont annoncé plusieurs jeux. Et je vais être honnête, moi, c'est des jeux qui ne me parlent pas tellement, mais c'est le genre de jeu qui était extrêmement populaire chez une certaine partie de la population des gamers et des gameuses il y a quelque temps, et dont le retour des franchises va faire, je pense, certains heureux, très heureux. Notamment Destroy All Humans, le 2 a été annoncé. Ils ont aussi annoncé Outcast 2. Ils ont annoncé Jagged Alliance 3 et quelques autres jeux de ce type. Alors, on ne va pas faire 4 heures dessus parce que c'est encore une fois un petit peu niche comme, comme annonce, je pense. Il y a aussi SpongeBob SquarePants de Cosmic Shake. Ça, je ne sais pas à qui ça parle, mais c'est des jeux que vous voyez revenir avec plaisir, vous, ou est-ce que vous me rejoignez dans mon impression un petit peu, bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est qu'en fait, je les connais même pas assez pour être excité par l'annonce du retour de ces franchises.
Je suis assez d'accord avec toi parce que je crois qu'il n'y a aucun jeu que tu as cité auquel j'ai joué. Ouais. Donc ça va être très compliqué de donner un avis dessus. Alors Destroy All Humans, je vois de loin le jeu, mais j'ai jamais joué et les autres non plus. Donc désolé, mais je n'aurai pas d'avis constructif.
Bah écoute, pareil, je me sens moins seul. Kevin, toi tu es.
Je suis exactement dans le même cas. Voilà, oui, c'est pas du tout des licences qui me parlent personnellement. Donc exactement pareil que vous.
Ça va.
On est
merci, je me sens moins seul. C'est cool. Je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent l'émission là et qui sont en train de se dire oh mais non t'es fou, attends, Destroy All Humans c'était tellement cool, c'est marrant, c'est les aliens qui viennent, enfin un alien qui vient détruire tous les humains sur un ton comique. Il y a Jagged Alliance, c'est un jeu de stratégie je crois qui était très populaire, c'était quoi, fin 90 début 2000 peut-être, quelque chose comme ça. Et justement, il y a des gens qui vont nous dire « Ah, mais Jagged Alliance, c'était trop, trop cool !» Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont super excités de l'arrivée de ces jeux-là. Voilà, c'est genre un XCOM, on va dire, Jagged Alliance. Mais oui, c'est pas mon cas. Donc, si vous faites partie des gens qui sont super excités de les voir revenir, eh ben, je suis très content pour vous. Et maintenant, vous savez. On a aussi eu des rumeurs qui ont été lancées par l'ami Gotoz, qui pendant sa matinale sur Twitch, si je ne m'abuse, il y a quelques jours, il a sorti le fait que Quantic Dream était en train de travailler sur un jeu Star Wars. Alors Quantic Dream, c'est Destroy
Become Human, Become Human. Ouais, Detroit Become Human, Detroit, Heavy Rain.
Exactement. Ouais. Et donc, alors, il semblerait que le jeu, après que Gotoz en ait éventé la rumeur, d'autres personnes l'ont confirmé, donc ça semble assez certain qu'ils sont en train de travailler dessus. Et il y a quelque chose d'intrigant dans l'idée que ce studio travaille sur un jeu Star Wars. Alors, c'est hyper narratif, ce qu'ils font d'habitude. Il semblerait que ça ne soit pas aussi proche de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant qu'on pourrait le penser. Donc, peut-être qu'il y aura un côté un petit peu plus action. Alors, ce que dit la presse américaine, c'est... C'est plus un jeu d'action monde ouvert avec un petit peu de multijoueur, selon Kotaku. Donc, bon, on n'est pas tout à fait dans l'ambiance Heavy Rain, mais je suis sûr qu'ils ne vont pas non plus complètement abandonner ce qu'ils savent faire. Hein. J'imagine qu'il y aura des embranchements narratifs, je pense. Et puis, dans l'univers Star Wars, ça pourrait être intéressant. Donc voilà, ça, c'est une rumeur qu'on voulait relater. Vous êtes excité par l'idée d'un Star Wars de Quantic Dream, vous ?
Alors moi, vous savez mon amour pour Star Wars, donc c'est totalement faux. Je suis pas du tout fan de Star Wars, donc ça ne m'excite absolument pas. Non. Après, pourquoi pas hein, je ne suis pas fermée. J'aime beaucoup ce que fait Quantic Dream de base. Je suis très très fan de tous leurs jeux. Donc, pourquoi pas aller voir. Mais alors le truc, c'est que là, en plus, ils font peut-être pas ce qu'ils font d'habitude et du Star Wars. C'est un petit peu plus dur pour moi d'aller vers le jeu, mais on verra.
Ouais.
Je suis pire que ce cas-là. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas fan de Star Wars du tout, mais je suis pas fan. Je suis encore moins fan de Quantic Dream. Donc vraiment, désolé d'être un peu négatif comme ça, mais bon. Alors, il s'agit toujours d'une rumeur, hein, même si elle semble confirmée par plusieurs personnes. Bon, c'est une rumeur. Si jamais ça devait se vérifier, moi, de mon côté, je serais en train de jouer à autre chose, a priori. Mmh, mais je suis ravi pour les gens que ça peut intéresser. Et je me doute qu'ils et elles sont très nombreux.
Oui, moi je pense que j'aime bien la licence Star Wars, donc pourquoi pas. Moi j'aimerais bien en fait avoir une approche différente au jeu et peut-être une approche de l'univers Star Wars qui serait différente de celle qu'on a d'habitude. Peut-être un autre côté du monde de Star Wars, ça pourrait être intéressant. Il y a des gens qui réclament plus d'infos sur Bob l'éponge dans la chatroom. Alors écoutez, Bob l'éponge, c'est pas une licence avec laquelle j'ai grandi, mais le jeu de THQ Bob l'éponge a l'air quand même bien foutu, respectueux de la loufoquerie du dessin animé. Après, je sais pas si c'est forcément un jeu qui s'adressera à moi quand il arrivera. Donc bref, on va pas s'attarder sur Bob l'éponge. Je veux juste mentionner l'histoire du procès de Quantic Dream, puisqu'on en parle. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, il y avait eu des articles, c'était Le Monde et Mediapart, je crois, qui avaient publié des articles assez critiques du fonctionnement interne de Quantic Dream, et notamment de David Cage, disant qu'il y avait beaucoup de harcèlement et de comportements assez inacceptables au sein de la société. Quantic Dream avait fait un procès contre ses publications. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Mediapart qui a été relaxé. Le Monde n'a pas été... Enfin, ils n'ont pas gagné le procès contre Le Monde, mais il faut bien comprendre que la raison pour laquelle ils n'ont pas gagné, c'est que Le Monde n'a pas voulu révéler ses sources. Et en France, quand on ne peut pas prouver les choses qu'on avance, il y a une question de... comment ça s'appelle en français le libel, le mot anglais me vient à l'esprit, mais... quand on ne peut pas prouver la chose... Eh bien, le bénéfice du doute est donné à la personne qu'on a accusée. Et en l'occurrence, Le Monde a voulu protéger l'anonymat des personnes qui leur avaient parlé. Donc après, voilà, c'est, on en fait ce qu'on veut. Mais je voulais mentionner les raisons pour lesquelles Quantic Dream avait gagné dans le procès contre Le Monde, notamment.
Ouais. Et si je puis me permettre, ça me paraît tout à fait sain de la part du Monde de ne pas révéler ses sources. C'est un des piliers de la charte, de l'éthique journalistique, même dans le cadre d'un... Donc bon, de mon côté, je trouve ça plutôt rassurant qu'il ne l'ait pas fait. Voilà.
Je suis assez d'accord. Je pense que, bon là, on parle d'autre chose que de jeux vidéo. Je pense que, vu la quantité de travail qui a été mis sur ces rapports, je pense qu'il est assez probable qu'il y ait eu au moins du vrai dans tout ce qui a été dit. D'un autre côté... Même si les choses sont traitées de manière un petit peu différente aux États-Unis sur la question de la culpabilité dans ce genre de cas de libel, de mensonge sur une personnalité publique ou une société, etc. Je comprends aussi qu'on se dise, bon, si on ne peut pas prouver ce qu'on dit, oui. Du coup, le juge estime que la personne accusée peut être dans son droit aussi, parce que sinon, c'est compliqué de... Enfin, on peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Et je comprends pourquoi, en fait, le tribunal a décidé d'aller dans le sens de Quantic Dream, même si, encore une fois, là, il semble assez clair qu'il y avait au moins du vrai. Et d'ailleurs, ils n'ont pas attaqué Canard PC, qui était dans le groupe des organes de presse qui avaient enquêté. Et Mediapart a été jugé non coupable de la chose. Donc, enfin, non coupable. Le tribunal a jugé en leur faveur. Donc, bon. Voilà, vous avez tous les éléments.
Ouais.
C'est ça, c'est pas vraiment Quantic Dream qui a gagné, mais les personnes, David Cage, les personnes qui avaient été mises en cause par les articles. Bref, je voulais le mentionner puisqu'on parlait de Quantic Dream. Encore une histoire de procès, tiens, avec des trucs intéressants. On a eu, suite au procès entre Epic et Apple, des données hyper intéressantes sur le fonctionnement de l'App Store. Savez-vous combien de quel pourcentage de revenus de l'App Store en général vient du jeu vidéo. Alors le texte est sous vos yeux, hein, mais ne le regardez pas. Si je vous demande, je vous pose la question à froid, dans l'App Store, les revenus, c'est combien les jeux vidéo, c'est combien des revenus de l'App Store à votre avis?
Moi, je suis désolé, j'étais en train de regarder l'écran, donc j'ai vu la réponse.
C'est 70%.
Je vais m'abstenir. Ouais.
C'est 70% des jeux vidéo, des revenus qui sont constitués par les jeux vidéo. Encore
c'est
plus intéressant.
Énorme.
Ah, bah ouais. Oui, complètement. 70%. Et encore plus intéressant, 0,5% des utilisateurs de l'App Store, on parlait de mécanique de jeu free-to-play, 0,5% des utilisateurs représentent 50%, plus de 50% des revenus de l'App Store totaux.
Ah ouais. Donc c'est vraiment le mécanisme, enfin la mécanique de la baleine, du whale illustré dans l'ensemble de l'App Store. C'est impressionnant.
C'est ça.
C'est un phénomène 0,5%. Qu'on constate dans chaque jeu. Ouais. Ah, c'est fou. Ouais.
Et
qui représente, tu as dit combien ? 15%.
Non, 0,5% représente plus de 50%, 53,7%.
C'est fou. Ouais.
C'est dingue, hein. C'est incroyable.
Ouais.
Mais bon, alors, évidemment, je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a certainement là-dedans des gens qui dépensent de l'argent et que la mécanique est critiquable. Peut-être que ces gens-là ont beaucoup d'argent et sont heureux de le dépenser là-dedans, ça, on pourrait en débattre. Mais ensuite, ça veut aussi dire que 80% des utilisateurs ne dépensent quasiment rien dans l'App Store. Après, ouais. Il y a d'autres chiffres, genre 10% dépensent un tout petit peu, etc. Mais 80% des gens ne dépensent quasiment rien. Donc les jeux sont aussi disponibles à payer pour... Et on va en reparler dans un instant des jeux free-to-play avec Pokémon Unite, mais en tout cas, c'est impressionnant comme chiffre. Hein. 0,5%, ouais. On imaginait qu'il y a des whales et que c'est ça, que des grosses baleines et que c'est ça que les développeurs chassent pour avoir la majorité de leurs revenus. Moi, j'imaginais pas que c'était 0,5% des utilisateurs hein, quand même.
Et je pensais pas que c'était à ce point-là. Et même si maintenant, en en parlant, ça me paraît tout à fait logique, en réalité, j'avais... étonnamment pas imaginé que ce serait le cas en règle générale dans l'App Store. En fait, on sait que c'est vrai pour la plupart des gros jeux, mais là constater qu'en fait l'addition de ce phénomène sur chaque jeu donne un chiffre aussi impressionnant à l'échelle de l'App Store entier, ouais, ça fait prendre conscience d'un truc assez fou, quoi, je trouve.
Ouais, on est d'accord. Et on nous dit dans la chatroom, conclusion, c'est une très infime minorité de joueurs qui encourage une industrie qui nous inonde de lootbox. C'est vrai, tout à fait. Si, c'est un peu... C'est pas un raccourci, c'est vrai. Mais d'un autre côté, encore une fois, bon, je me fais un petit peu l'avocat du diable. Hein, je lance le jingle, c'est l'avocat du diable. C'est Patrick, l'avocat du diable. Ta-ta-da. Je me fais l'avocat du diable. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'il y a des tonnes de jeux qui sont produits et que une immense majorité de joueurs ont accès à ces jeux sans rien payer.
Ouais.
Et la plupart ne payent rien, ou ne payent rien. Donc, il y a aussi un tout petit peu... Je sais que ce n'est pas la vision prévalente dans l'univers du gaming, en particulier dans l'univers console et PC, parce que nous, on aime avoir des jeux qu'on paye, et c'est terminé, on n'a pas de microtransactions après. Mais je crois que ce n'est pas une... vision qui est complètement illégitime non plus, parce qu'il y a des gens qui ont accès à des jeux sans payer quoi que ce soit, qui ont peut-être moins d'argent ou qui ont, je ne sais pas, il y a plein de cas de figure, peut-être même dans des pays où ça coûte beaucoup plus, par rapport au niveau de vie, c'est beaucoup moins accessible, le jeu vidéo est beaucoup moins accessible, et il y a énormément de gens qui ont accès à tous ces jeux-là. Pas sponsorisé, mais subsidized, financé, subventionné, voilà, par ces 0,5% de gens qui payent énormément et pour faire que ces jeux existent. Donc, je tire un petit peu sur le cheveu.
C'est l'ISF du jeu vidéo, en fait.
C'est ça.
Une vision très socialisée. J'ai été convaincu par cet avocat du diable. Je m'y attendais pas. Il est très fort, cet avocat du diable.
N'est-ce pas? Tu vois, ouais, c'est ça. C'est l'ISF, les gens qui ont beaucoup de sous. Alors, le problème là-dedans, c'est s'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous et qui se mettent à dépenser tout leur salaire dans les trucs de Pokémon Unite ou ce genre de trucs.
Ouais.
Moi, j'attends encore qu'on me prouve que c'est le cas. Hein. Pour tous les FIFA, Ultimate Team et tout ça, j'ai rarement vu des gens, au-delà des enfants qui ont pris la carte bleue de maman pour acheter des myrtilles dans les schtroumpfs il y a quelques années, j'ai rarement vu des gens qui disaient « Oh mon Dieu, j'ai dépensé l'argent de mes pattes du mois prochain dans... » Je ne sais pas pourquoi je prends l'exemple de Pokémon Unite en permanence, mais... Bon, si c'est le cas, évidemment, c'est très problématique, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est des gens qui, au lieu d'aller, je sais rien moi, faire du golf ou jouer, acheter un yacht, ou non, j'exagère, mais même des gens qui sont pas forcément très riches, mais c'est leur passe-temps, et ils vont dépenser, c'est pas forcément des gens qui dépensent des millions d'euros, mais déjà, je sais pas, 100 euros par mois, c'est beaucoup, 100, 150, 200, et ben ça va être leur passe-temps, et c'est là-dedans qu'ils vont mettre de l'argent. Après, c'est de l'argent perdu, machin, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est des gens qui font le choix en connaissance de cause. Donc... Je suis complètement conscient de la problématique et de l'aspect psychologique qui essaye de tirer sur la corde et c'est conçu pour te pousser à dépenser, etc. Je suis complètement conscient de tout ça. Mais je suis pas... Enfin, je sais pas. Bref, j'ai présenté tous les arguments. Après, vous pouvez vous faire votre avis là-dessus. On pose la question, combien d'acheteurs compulsifs sains demande Vincent dans la chatroom. Pas mal d'addictions dans ce comportement. C'est possible ? Mais franchement, encore une fois, je ne suis pas sûr. Moi, je n'ai pas vu... On part du principe que... Et je ne veux pas repartir sur tous mes débats. J'ai une opinion très impopulaire sur ces questions-là. Tout le monde est... Enfin, généralement, les gens ne sont pas du tout d'accord avec moi. Mais on dit « Ah, il y a beaucoup de gens qui dépensent parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher. » J'ai jamais entendu quelqu'un qui me dit « Ah, moi, j'achète mes cartes dans FIFA Ultimate Team parce que je ne peux pas m'en empêcher et du coup, je ne peux pas payer la piscine de mes enfants le mois prochain. » C'est pas ce que j'ai vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont adultes, qui rentrent du boulot, qui sont crevés et qui se disent oh, je vais m'acheter un petit paquet de cartes sur FIFA Ultimate Team. Peut-être que j'aurai Ronaldo dans le prochain, tu vois. Et oui, on est d'accord, c'est Cradock, hein. Je suis pas en train de dire le contraire. La mécanique des lootbox, etc. Mais cette conclusion de principe sur laquelle on part en disant bah, c'est que des gens qui voudraient pas dépenser l'argent et qui sont embrigadés comme dans un casino, j'attends qu'on me le prouve encore. Et moi, j'ai pas vu beaucoup de gens qui me disent ça. Ouais, après, il y en a, je suis sûr.
Je pense quand même que... je suis pas tout à fait d'accord avec tout ça, mais comme tu le dis...
Je suis l'avocat du diable, hein, je tire
voilà,
sur le
truc.
Ça, hein.
C'est ça. Je pense qu'en fait, vu que quoi qu'il en soit, il s'agit plus ou moins de jeux d'argent, quels que soient les comportements en fait qui y sont associés, il s'agit de jeux d'argent. On encadre. La société a tendance à encadrer fortement les jeux d'argent sous toutes leurs formes. Et pour l'instant, on constate un certain retard dans l'encadrement de ces jeux d'argent là. Et donc, tout en pouvant entendre tout ce que tu viens de dire, il me semble parallèlement tout à fait normal qu'il faille se pencher là-dessus afin de l'encadrer, afin d'encadrer tout ça de manière plus efficace. Et même si dans l'encadrement du jeu officiel, y compris genre Française des Jeux, tout ça, il y a aussi évidemment beaucoup d'hypocrisie. Ce sont évidemment des systèmes qui fonctionnent parce que tout le monde met de l'argent dedans et qui fonctionnent aussi pour à la fin gagner, comme les casinos, pour être rentable à la fin. Mais bon, voilà, un peu plus d'encadrement du côté du jeu vidéo. Mais c'est déjà le cas, hein. Les loot box, tout ça, ça a été.
Ça, on en parle depuis un moment.
En quelque sorte, c'est ça.
Ouais,
et donc, ça me paraît normal qu'on mette un peu le nez dans ces rouages, quoi, je trouve. Voilà.
Ouais, moi, je suis pas convaincu, encore une fois, l'avocat du diable, que c'est des jeux d'argent, parce que le gros problème des jeux d'argent, c'est que t'as l'illusion, le faux espoir de gagner de l'argent avec.
Ah oui, de regagner de l'argent derrière. Ouais,
c'est
ouais,
ça. Ouais. Et clairement, je vais pas te dire le contraire sur la question des jeux d'argent. Le problème, c'est que il y a, je sais plus qui disait, la loterie, enfin ce genre de truc, c'est l'impôt sur les pauvres. Et c'est tout à fait vrai. C'est un gros problème. Ça. Clairement, tu as l'espoir. Le problème, c'est que tu peux pas les interdire parce que sinon, ça crée toute une économie parallèle et souvent beaucoup moins saine. Et ça ne disparaît pas. C'est comme l'alcool, c'est comme toutes ces choses-là. Tu peux pas vraiment les interdire. Oui. Ce qu'on fait en Finlande, c'est que ça finance la santé publique. C'est une partie des finances de la santé publique. Bref, bon, tout ça, c'est un sujet qui est complètement différent, mais à part ça, on sera d'accord pour dire... Moi, je pense que c'est surtout en train de passer de mode, en tout cas dans les jeux traditionnels, peut-être pas sur mobile, mais c'est en train de passer de mode au profit de trucs comme les Battle Pass, qui sont aussi problématiques par d'autres aspects. Mais bon. L'autre sujet dont je voulais parler suite à ce procès, C'est la sortie de Tim Sweeney sur Twitter qui a dit que Apple refusait de réinstaurer le compte développeur sur iOS. Il a publié le message de la personne qui lui a envoyé son message, enfin de Phil Schiller, qui lui dit... qui lui disait... Non, pardon, c'est pas Phil Schiller qui lui a répondu. Peu importe. En gros, ils lui disent « Écoute, Monsieur Sweeney, t'es bien gentil, mais t'as été quand même hyper... t'as joué un peu salement avec l'App Store. Tu as déclaré... Il y a eu un jugement qui a dit que vous aviez cassé le contrat, que vous avez contrevenu au contrat que vous aviez signé avec nous en mettant des moyens de paiement tiers dans votre app. Et en plus de ça, après que le jugement ait été rendu, tu as déclaré publiquement sur Twitter « Ah, mais de toute façon, on viendra jamais sur l'App Store avant qu'on puisse mettre notre propre moyen de paiement à l'intérieur des apps. C'est juste pas possible. » Donc maintenant, c'est très simple, Epic n'aura pas son compte avant la fin du procès et de tous les appels. Et ça peut prendre des années et des années. Et il est allé s'en plaindre sur Twitter. Genre, oh, c'est dégueulasse, Apple nous a dit qu'on n'aurait pas le droit de... Je trouve ça quand même pas super cool. J'ai beaucoup de sympathie pour Tim Sweeney qui, à part le fait de nager dans ses millions, a généralement combattu l'idée de monopole, ce qui lui va très bien pour Epic, mais combattu l'idée de monopole sur Windows, sur d'autres plateformes. Mais là, je trouve ça un petit peu facile quand même. Il a clairement attaqué Apple et de manière pas très clean, je trouve, en public. Et maintenant, il vient dire « Oh, ils veulent pas réinstaurer notre compte développeur. » Bah oui, mais à un moment, mon gars, je sais pas ce qu'il te faut, quoi. T'as été craché dans les yeux d'Apple. Enfin, là, c'est les conséquences. Il l'a fait en connaissance de cause. Alors, le fait qu'il vienne s'en plaindre maintenant, je trouve ça un petit peu puéril. Mais bon, bref. Je voulais le mentionner.
D'accord.
Allez. Je vous promettais de parler de Pokémon Unite. On a quelques news super rapides. Mise à jour de Pokémon Unite à l'occasion de la sortie sur iOS et sur Android. C'est un petit peu moins pay to win. Il y a plus de possibilités d'augmenter les objets qu'on peut équiper sur ces Pokémon. Et le jeu est toujours aussi fun. Et du coup, quand je disais j'ai d'autres jeux sur mobile auxquels je peux peut-être jouer, peut-être que Pokémon Unite, avec ses parties de MOBA de 5 minutes ou 10 minutes max, ça peut être un truc, surtout que un petit peu moins pay to win. Et en plus, les gens qui ont joué disent bon, c'est quand même sympa à jouer, même si on ne sort pas des sous. Pourquoi pas, beau petit jeu. Et il y a aussi un nouveau jeu de cartes sur PC et il est free to play, évidemment. Hein. Et il vient remplacer, en fait, je ne sais plus comment il s'appelle Pokémon TCG Live, Card Game Live, et il remplace le TCG Online qui était vieillissant, qui s'appelait TCG Online. Donc si vous voulez du Pokémon free to play, vous êtes servi là en ce moment.
C'est une adaptation vraiment du... Oui, c'est ça, ça a l'air d'être le cas. C'est une adaptation du jeu de cartes Pokémon qui existe, quoi. C'est
tout
ça, j'ai l'impression. Ouais, ok.
Et je dis sur PC, mais il est aussi sur mobile, évidemment. Hein. Et vous pouvez acheter des lootbox.
Et oui.
Bon, c'est des paquets de cartes.
Bon, ce qui est le principe, c'est ça. Ce qui est déjà le principe du jeu dans la vraie vie, entre guillemets, quoi, avec les boosters, etc.
C'est ça. On a aussi... vous avez vu ce partenariat, on parlait de Battle Pass et d'Epic. Vous avez vu ce partenariat entre Epic et Balenciaga ?
Non, j'avais pas vu.
Ah non, ça, j'ai pas vu. Mais ça ne m'étonne qu'à moitié.
Ouais. Écoute, franchement, je trouve que les looks que Balenciaga a designés... On dit Balenciaga ou Balenciaga ? Je ne sais pas, c'est des Espagnols.
Je ne sais pas non plus. Bon, j'ai pas assez acheté de vêtements chez eux.
Écoute, c'est marrant parce que tu vas pouvoir commencer. Hein. Les looks qu'ils ont dans Fortnite sont vraiment cool. Je trouve que tu vois, tu sens le design de quelqu'un qui est un vrai designer de mode, qui sait ce qu'il fait. Et les looks sont vraiment, bon, peut-être à part le look tigre qui est moyen, combinaison tigre, mais... Ils sont disponibles donc dans Fortnite, mais tu peux aussi acheter dans la vraie vie le hoodie Fortnite de Balenciaga pour une somme tout à fait modique, $725. Donc, Trinity, tu peux te lancer.
Il va falloir vendre des chips à 8 euros.
Ah oui, là. Je vais pas en vendre. Alors moi, tu me dis ça à moi, adepte de la seconde main et des fripes, où je paye mes chemises 15 euros, tu vois. Alors là...
Bon, c'est pas forcément... Tu peux te reporter sur Fortnite, du coup.
Non, mais après, je ne juge pas, chacun sa passion. Bien sûr. Chacun dépense son argent où il veut. Si vous avez envie de mettre 700 euros dans un hoodie Balenciaga, allez-y. Hein.
N'hésitez pas. On a aussi une information intéressante, j'ai trouvé ça assez intéressant, sur God of War, la raison pour laquelle le Ragnarok sera le dernier de la série nordique, de la saga nordique. C'est Cory Barlog, je crois, qui disait ça, qui était le directeur du premier, mais pas du second, qui disait la raison pour laquelle on s'est dit on va en faire que deux, c'est que désormais, il y a une certaine époque, on pouvait développer un jeu comme ça en, allez, 2-3 ans. Aujourd'hui, il nous faut au minimum 5 ans pour en développer un. Si on veut en faire 3, ça fait que la saga s'étend sur, allez, 10 ans entre la sortie des deux. C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Donc, ouais, on va en faire 2. Et je trouve ça cohérent comme raisonnement. Pourquoi pas ? Je trouvais ça intéressant.
Oui, ouais, carrément.
Moi, c'est je trouve toujours ça intéressant dans le jeu vidéo, dans ce genre d'industrie, jeu vidéo, cinéma, tout ce qu'on veut, les industries de la pop culture, disons, je trouve ça toujours intéressant quand quelqu'un va venir et dire « on pourrait en faire moins ». Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui serait salutaire, qu'on ait plus ça. On pourrait faire des trucs moins longs, on pourrait faire des trucs moins, au lieu de vouloir toujours plus. Donc, je trouve ça assez salutaire, ouais. Surtout de la part d'un triple A comme ça, quoi. Enfin, c'est très révélateur, parce que c'est un jeu extrêmement attendu et extrêmement important, une très grosse production.
On est d'accord. Ceci dit, Kevin, au risque de briser tes illusions, on risque d'avoir un autre God of War après. Hein.
J'en doute pas, bien sûr. Tu vois, effectivement.
Et on va pas la mettre au placard non plus, la licence. Mais bon,
oui, c'est vrai.
C'est quand même intéressant. Un truc un petit peu moins cool, dans Gran Turismo 7, on a appris que d'une part, la campagne sera always online. Bon, ça me gêne pas tellement. Mais surtout, le ray tracing ne sera pas disponible dans le jeu en dehors des replays. Le ray tracing ne sera que dans les replays. Et dans Far Cry 6, il n'y aura pas du tout de ray tracing sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Ils se sont concentrés sur la résolution, comment dire, la résolution et la fréquence d'affichage, mais le ray tracing sera disponible que sur PC. Donc, ces consoles dont on nous promettait qu'elles feraient du ray tracing, et il y en a sur certains jeux, là, c'est un petit peu un coup dur. En même temps, l'Unreal Engine 5 va arriver et corriger tous ces problèmes, je n'en doute pas, mais c'est marrant de voir qu'il n'y aura pas de ray tracing sur les jeux de cette catégorie. Et puis, je veux juste mentionner, il y a Dead Cells qui a une nouvelle mise à jour qui rend le jeu plus facile. Si certains étaient intéressés par Dead Cells mais ne s'étaient pas encore lancés, Dead Cells continue à avoir des mises à jour. C'est plutôt cool. Merci à Motion Twin. Au niveau des annonces, on a Wipeout Rush qui est annoncé. Wipeout, tout le monde attend le retour de la série Wipeout. Hein. Toi aussi, Kevin, j'en suis sûr. Trinity,
complètement.
Trépigne d'impatience. Eh bien,
oui.
ne vous n'attendez plus. Wipeout Rush arrive sur mobile. Sur mobile.
Oui, alors c'est ça. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un mais à la fin. Ouais.
Non, mais vous êtes... Ouais. Ah, pourquoi ? Peut-être que ça sera cool, on sait pas.
Non, mais en fait, moi, j'ai vraiment... Après, ça, c'est un avis, une opinion totalement personnelle. Je suis pas une gameuse mobile, mais pas du tout. Ouais. Donc, moi, dès qu'un jeu sort sur mobile, malheureusement, il peut être génial. Si, j'en ai fait quelques-uns brièvement, mais très peu, quoi. Je n'arrive pas... J'ai besoin d'avoir mon bureau, mon écran. J'ai mal à jouer sur mon mobile, quoi. Voilà.
Ouais, je comprends. Ouais.
Écoute, et puis là aussi, je trouve qu'au-delà de ça, je suis pas fan de la take, enfin de l'approche du jeu, le côté un peu cel shading, le côté BD comme ça. Bon, même si c'est lancé sur console, je sais pas ce qui m'attirerait le plus dans un Wipeout, quoi.
On peut comprendre. Écoute, je trouve qu'il a l'air plutôt cool.
Mais pourquoi pas, bien sûr.
Ça se trouve, il sera bien. On n'a pas de date encore. Hein. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la licence Wipeout qui est à Sony, si je ne m'abuse. Je crois, peut-être pas. Oui, je crois que c'est eux qui arrivent sur mobile. Donc c'est intéressant de voir qu'ils développent sur mobile aussi. Ils avaient annoncé qu'ils allaient le faire. Donc à voir. Deltarune, le 2, c'est marrant parce que Toby Fox a dit le chapitre 2 est gratuit parce que l'année dernière a quand même été très très dur pour tout le monde. Donc allez, je vous file le chapitre 2 gratuitement. Les indés, c'est quand même des gens sympas. Hein. Bon, Toby Fox, il est. je pense qu'il a pas besoin il va pas mourir de faim s'il vend pas son jeu, hein, donc il a cette chance qu'ont certains d'entre nous, je m'inclus là-dedans, je vais pas mourir de faim demain. Certains indés ont la vie beaucoup plus dure, mais c'est cool, je trouve ça tellement bienveillant. La vie a été très dure cette dernière année, donc Deltarune chapitre 2 est gratuit, et il a dit le 3, 4 et 5 arriveront en même temps, et je pense que ceux-là ils seront payants, donc ça arrivera. Je parle souvent de Microïd avec leurs adaptations de jeux de BD françaises, et je disais peut-être qu'ils vont faire d'autres trucs ensuite, ça serait intéressant, parce que ces jeux-là ont l'air pas trop mal foutus, les Marsupilami, les Schtroumpfs, les Astérix et Obélix, etc. Là ils ont signé un deal avec Taito. Et ils ont signé un deal pour ramener deux licences Taito, pour en refaire des licences Taito. Et Taito, il peut y avoir des trucs cool. Alors, c'est une société qui n'a pas connu de beaucoup de succès, on va dire, ou de nouveautés ces dernières, j'allais dire années, mais on va dire décennies. Mais c'est marrant, Taito, ils ont fait des jeux assez classiques. Bref, Microïd va s'occuper de ça. Et Tales of Arise a vendu 1 million d'unités. Donc 1 million d'unités, c'est plutôt une bonne chose pour cette licence dont je disais il y a quelques jours, quelques semaines, qu'elle découvre un plus grand public en Occident. Ça semble en prendre le chemin.
Ouais.
Quoi d'autre ? Il va y avoir un Steam event où on pourra jouer à plein de démos en octobre, donc préparez-vous. On a des infos sur la PlayStation 5 qui a été testée par Digital Foundry avec son nouveau modèle qui est complètement égal à l'ancien modèle. Vous savez, il y avait cette histoire de radiateur, ventirad, plus modeste, et ça marche très très bien. Et avec le dernier firmware, on gagne même 1 à 2 FPS par jeu. Incroyable. Et il y a des rumeurs selon lesquelles les jeux Nintendo 64, après les jeux Game Boy, les jeux Nintendo 64 pourraient arriver sur Nintendo Switch. Je vais vous passer les détails des rumeurs, mais ça a été sorti par différentes personnes. Peut-être que ça sera annoncé lors du Nintendo Direct de ce soir, à minuit. Bon, je pense pas, mais quand même. Ouais. Et puis on
J'aimerais bien qu'on remplisse déjà les jeux de Super NES. Il y a déjà plein de trucs à compléter avant d'amener la 64 sur Switch. Mais bon, c'est un autre sujet aussi.
Et puis s'ils amènent les jeux Game Boy, ça va faire du monde. Il y a Diablo 2 qui est sorti aujourd'hui, si je ne m'abuse. Diablo 2 Resurrected. Alors je vous avoue que personnellement, j'avais reçu un code de Blizzard. J'avais pas très très envie, je vous avoue, parce que d'une part Diablo c'est pas mon truc, et puis que je suis encore un petit peu je l'ai encore sur l'estomac, l'histoire de Blizzard de cet été. Ça changera peut-être à un moment, je dis pas que quand Overwatch 2 sortira je ferai la même chose, mais bon, pour le moment du coup je l'ai filé dans le Discord, donc j'ai fait un heureux, je suis content. Mais au-delà de ça, il y a une enquête de la SEC qui met en cause Bobby Kotick directement, enfin pas qu'il met en cause. En gros, la SEC, c'est la Securities and Exchange Commission, c'est les gens qui s'occupent des histoires financières aux États-Unis. Et des investisseurs de Activision Blizzard disent que le management de Activision Blizzard n'a pas annoncé assez publiquement les problèmes qu'il y avait dans la société, notamment au niveau du harcèlement. Et ils ont donc demandé à la SEC, ils ont fait un procès, deux groupes différents ont fait un procès au management d'Activision Blizzard, et la SEC a lancé une enquête. Et ils demandent le témoignage spécifiquement de Bobby Kotick dans cette enquête. Et donc, déjà que les choses étaient assez sérieuses avec les différents procès qui étaient en cours, là, quand les investisseurs se sentent floués, je crois que ça devient très très sérieux. Et quand les dirigeants sont nommément impliqués, c'est là que les choses peuvent peut-être commencer à changer. Et peut-être chez Activision Blizzard, mais l'espoir là-dedans, c'est que si jamais ces choses-là prennent de l'ampleur encore, ce qui n'est pas du tout impossible, là on commence, comme je le disais, vraiment à arriver à des niveaux très sérieux, ça donne une sorte de coup de semonce à l'industrie en général, et que les gens se rendent compte, les dirigeants spécifiquement de ces entreprises se rendent compte que c'est une chose qu'ils doivent prendre au sérieux, parce qu'on dit souvent depuis des années que « ah bah oui, on en parle, mais ça change pas » ou « ça a peu d'effets », etc. Bah oui, là, ça pourrait avoir effectivement des effets, au-delà du fait que ça se répète tellement que peut-être qu'au bout d'un moment, les gens vont y faire quelque chose. Donc, je voulais le mentionner également ici.
Ouais. Et puis, il y a quelque chose d'effectivement assez impressionnant, mais aussi tout à fait rassurant dans le fait qu'une aussi grosse boîte puisse avoir d'aussi gros ennuis concernant ce genre de dérive. Ouais. Quelque chose de surtout rassurant. Ouais.
Bon, en fait, c'est un truc, et ce qui est, il y a deux choses notables. D'une part, il y a quelques années, je pense que ça n'aurait pas été aussi loin. Et d'autre part, les investisseurs, ils voient un risque financier. Bon, c'est toujours là qu'est le nerf de la guerre, mais ils y voient un risque financier et donc ils se retournent contre le management. Et là, ça les met directement face à leurs responsabilités financières. Je ne sais pas si ça sera pénal, mais en tout cas, clairement sérieuse. Donc, on verra. Et puis entre parenthèses, le responsable légal de Blizzard a quitté la boîte et la personne en charge de Overwatch 2, comment il s'appelle, Sony quelque chose, la personne, l'exécutif qui est en charge de Overwatch 2 a quitté également la boîte, Sony Chaco, c'est ça. C'est intéressant parce que bon, moi je suis j'ai beaucoup beaucoup joué à Overwatch 1, hein, vous le savez, et le sort de Overwatch 2 reste assez incertain. Moi, je me demande, il y a plusieurs scénarios possibles. Mon scénario que je mets en point d'interrogation, c'est est-ce que le développement dure depuis trop longtemps et donc le management se dit, bon, maintenant ça suffit, il faut que le jeu sorte. Parce qu'en plus, on a une annonce, une pré-annonce qui dit que pendant les événements de l'Overwatch League de la fin du mois de septembre, on va avoir une grosse annonce pour Overwatch 2. Et ça pourrait être qu'ils vont annoncer une sortie dans, je ne sais pas, 6 mois, 1 an. Et en fait, le jeu ne serait peut-être toujours pas prêt. Et donc, la personne qui est en charge de la production se dit « Non, mais là, je ne peux pas, je me barre, parce que ce n'est pas possible. » Et du coup, parce qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il faille sortir le jeu maintenant s'il n'est pas prêt. Je ne sais pas du tout. Moi, ça me fendrait le cœur parce que j'ai adoré Overwatch. J'y ai passé des centaines d'heures. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est autre chose, hein, complètement.
Il n'a pas donné d'explication du tout de pourquoi il quittait la compagnie.
Alors, je paraphrase, mais en gros, il dit « j'ai piscine hein. ». C'est genre « ah, ouais. Ça a été super de... » Ça a été super de... Ça a été super de travailler chez Blizzard, machin. Et bon, maintenant, je vais prendre des vacances et puis on verra après.
Ouais.
Ouais, ok, d'accord, je vois.
Donc... Il est possible aussi qu'il ait été impliqué dans des histoires de harcèlement ou ce genre de choses et qu'il sorte par la petite porte. Hein. J'en sais rien.
C'est vrai qu'il y avait toutes ces histoires. C'est un peu compliqué aussi de savoir maintenant, étant donné tous les scandales qu'il y a eu il y a peu de temps. Quoi.
Ouais.
On ne sait pas. Et donc voilà, on finit avec des histoires pas trop sympas. Oh, vous savez quoi ? Si, allez, deux choses pour finir. IKEA... est en train de sortir des meubles gaming, spécialement gaming, avec des trucs comme enfin plein de matériel, genre des trucs pour poser vos fils de souris, pour accrocher vos claviers au mur. Bon, pourquoi on voudrait accrocher nos claviers au mur ? On ne sait pas, mais ils sortent ça aux États-Unis. Le gaming est vraiment arrivé partout, là.
Mais pas que, là. Moi, ils m'ont contacté. Hein. J'ai reçu carrément un mail, etc. là, ça, ils sont en train de contacter des gens en France pour nous. Ils nous ont déjà annoncé tout ça, quoi.
C'est cool. Écoute,
ouais.
IKEA, moi, je vis en Finlande. J'ai du matériel. Ah ouais. Alors, si vous voulez regarder, mon bureau, là, c'est un bureau électrique IKEA. J'ai plein de trucs IKEA autour de moi. Si vous voulez sponsoriser un podcast, on peut discuter. Je prends des tarifs très raisonnables d'environ 1 million de dollars par épisode. Je pense que vous avez
tout à fait raisonnable.
Non, mais je trouve que c'est... En vrai, c'est intéressant. Hein. Enfin, il fallait qu'ils se placent là-dessus. Ils ont tout. Et là, bah, ils vont pouvoir toucher une nouvelle communauté encore plus. Il y avait déjà pas mal de gens qui achetaient leur stuff, on va dire, chez IKEA, parce que c'est quand même un bon rapport qualité-prix pour pas mal de monde. Hein. Tout le monde n'a pas les moyens parfois de mettre des 1000 et des 100 dans des bureaux, etc. Donc là, c'est bien qu'ils fassent une gamme spécifique.
Tout à fait.
Et puis ça montre aussi que Bah, ça montre l'évolution des habitudes de consommation, quoi. Ça devient un truc normal à avoir dans un catalogue Ikea, quoi.
Ouais, exactement. Ouais, c'est ça qui m'a frappé. Ils ont un petit support pour casque que moi j'en ai pas là, donc il faudra que je fasse un tour chez Ikea. Je sais pas si.
Ouais, même là j'ai vu, tu sais, la petite plaque avec les trucs pour mettre ses câbles aimantés là.
Mm-hmm,
ah, mais ça c'est trop bien, je trouve. C'est une super idée, tu vois, parce que moi mes câbles ils traînent partout tout le temps.
Ouais, on est d'accord. Écoute.
Alors il y a un truc que je trouve un tout petit peu dommage là en voyant les photos, c'est que j'ai l'impression qu'ils se calent un peu sur le design un peu générique des trucs gaming, donc un petit peu genre agressif entre guillemets. Alors que ça m'aurait fait plaisir de voir une tech un peu plus Ikea-esque dessus, c'est un peu plus sobre sur le sujet du mobilier gaming.
Ouais.
Quoi.
Alors, je crois qu'en partie, c'est un partenariat avec ROG, République des Gamers de Asus.
Explique, du coup,
Donc, oui, tu as un petit peu les LED, mais il y a aussi du matériel qui est un peu plus sobre, donc tu as le choix.
Plus sobre, ouais, c'est vrai. Ouais.
Moi, j'avoue que je me suis... J'ai cédé aux sirènes. Alors, dans le boîtier de mon dernier PC, il y a des LED qui font de la lumière un peu partout, hein, j'avoue.
Ah,
mais j'adore ça, moi.
Écoute, l'important, c'est d'avoir le choix.
Oui, c'est ça, exactement.
Attendez, alors encore une fois, pour ceux qui sont dans la vidéo, regardez ça, hop, rouge, vert, bleu, je suis complètement illustré aux couleurs des consoles. Merde, comment je fais pour revenir dans mon... Non, là, j'ai... éteint toutes les lumières, voilà, c'est revenu. J'aime bien les LED aussi.
C'est devenu Black Mirror très vite.
Et l'autre truc, c'est, vous savez, il y a eu un tremblement de terre il y a quelques temps en Californie. Il y a quelqu'un qui était en train de chez lui de faire un match de Guilty Gear. Et pendant le tremblement de terre...
J'ai vu cette vidéo. Oui.
T'as vu ce truc ? C'est vraiment drôle.
Drôle.
En fait, il est en train de jouer à son match de Guilty Gear depuis chez lui, hein, à distance, pour un tournoi. Et il y a tout à coup le tremblement de terre qui commence et il se dit « Merde, mais qu'est-ce que je fais ?» Il s'est mis genre un petit peu sous son bureau en essayant de regarder son écran. Et ben, il a réussi à gagner le match quand même.
Mais tu m'étonnes.
Et il a réussi à gagner le match quand même. Donc, bien joué.
C'est drôle. C'est drôle.
Je trouvais ça drôle. Et voilà pour notre émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Est-ce que nous pourrions nous séparer en évoquant les endroits où on peut vous retrouver tous les deux, notamment Kevin ? Dis-nous tout sur le Cozy Corner et plus.
Bien sûr. Alors effectivement, le Cozy Corner, un podcast que tu as... très très bien présenté, je pourrais pas mieux le faire, qu'on retrouve donc sur tous les diffuseurs de podcasts habituels, en commençant par SoundCloud et en finissant sur iTunes évidemment, donc toutes les deux semaines, et avec le même collègue avec qui je fais le Cozy Corner, on stream également sur Twitch très régulièrement sur une chaîne qui s'appelle Alice Blaze, tout attaché, Blaze, B-L-A-Z-E. Un très mauvais jeu de mots, mais on en est très fiers. et donc ça, on stream plusieurs fois par semaine, à peu près 5 fois par semaine, et c'est les deux endroits principaux où on peut nous retrouver.
Super, ouais. On mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission.
Merci beaucoup.
Trinity, où te retrouve-t-on ?
Eh ben moi, comme d'habitude, hein, sur ma chaîne Twitch, Trinity, 5 à 6 fois par semaine. Et en plus, là, prochainement, je pars en Turquie. Je vais vous faire visiter Istanbul.
Oh, quel programme !
Ouais, super.
Pour ceux qui ne savent pas, Trinity est une grande adepte des live streams en je ne sais pas comment on dit, dans la nature, en vrai, dans la vraie vie.
Ouais, on appelle ça les live IRL, mais IRL, c'est un peu fourre-tout. Ouais. Donc c'est vrai que moi j'aime bien faire visiter, aller dehors, mais avant ça je vais vendre des chips et de l'essence cet après-midi sur Gas Station Simulator.
Super, on a
mon voyage.
Merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est notre Patrick. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais la semaine prochaine, on va faire un épisode un petit peu spécial. J'aimerais faire un épisode avec... On va voir si je vais pouvoir le faire. Et je devais le dire au début de l'émission, j'ai complètement oublié. Peut-être que je mettrai un petit avant-intro. J'aimerais faire un épisode spécial avec la communauté. On va faire peut-être par un live chat ou un stage sur Discord pour parler des jeux de la fin de l'année. Et quand je dis la fin de l'année, on va dire des prochains 6 mois, parce que les jeux de janvier, février sont complètement fous, et mars aussi, et lesquels vous attendez, lesquels vous connaissez. Et peut-être qu'on fera ça pour cet épisode un petit peu spécial la semaine prochaine. Donc les détails du Discord sont dans les notes de l'émission, vous pouvez nous rejoindre, et il y aura, comme d'habitude, le jeudi à midi, l'occasion peut-être de se retrouver. On va tester, on va voir ce que ça donne de faire ça comme ça, ça risque d'être marrant. Après un passage en revue rapide des news, un épisode communautaire sympathique. Je pense que ça pourrait être sympa avec, on va voir comment ça marche avec les stages, de faire participer tout le monde.
C'est une super idée.
Ouais, ça pourrait être marrant. J'espère que ça va pas être trop le bordel, mais on verra. Et donc, d'ici là, je suis NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez m'y retrouver. Vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais sur NotePatrick.com. C'est super simple. Vous allez sur NotePatrick.com et vous avez accès à absolument tout, y compris la fameuse chaîne YouTube où je mets les replays, où on met les replays avec Fanny. Vous aurez le lien directement dans la liste des liens sur NotePatrick.com. Si vous voulez regarder ça en vidéo de temps en temps, il y a les timecodes là-dessus aussi, parce que c'est assez pratique. Donc, si on a parlé d'un truc et que vous l'avez entendu en podcast et que vous dites « Ah merde, j'aimerais bien voir de quoi il s'agit » et regarder en vidéo, vous pouvez faire ça si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner aussi, évidemment. Et bien sûr, patreon.com/rdvjeu, le lien est aussi dans les notes de l'émission, pour soutenir le rendez-vous jeu, pour donner un petit peu de sous à cette émission qui est disponible gratuitement. C'est un petit peu le free-to-play du podcast, mais on va dire, tu comprends pourquoi je faisais l'avocat du diable, Kevin, sur les histoires de free-to-play maintenant ?
Ça y est, d'autant qu'on est dans le même bateau de ce côté-là, donc oui,
je suis finalement. C'est pas si mal. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao.